Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de la vie, je crois. Ah, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que je t'emmène en Asie, mais l'invité aujourd'hui, c'est mon cousin. Et c'est mon cousin André. Comment ça va, André ?
Ça va. Et toi ?
Eh bien, écoute, ça va très bien. En fait, alors, internaute, faut que tu comprennes que mon cousin, c'est le genre de mec, quand tu lui envoies un message, il te répond peut-être et deux semaines après. Sauf qu'il y a quelques années, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Salut, est-ce que ça te dit de déjeuner ensemble ?» Et j'ai dit « Oula, déjà, il n'y a jamais de messages qui vont dans ce sens-là, c'est toujours en réponse, c'est jamais en proaction. » Donc j'ai dit « Ouais, avec grand plaisir. » Et là, il m'a raconté qu'il avait envie, que tu avais envie de partir en voyage. Et tu avais envie de partir sur un gros trip en Asie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es parti en voyage, pourquoi à ce moment-là de ta vie, tu avais besoin de partir en voyage et finalement, qu'est-ce que tu allais chercher ?
Alors, la situation à l'époque, c'était, je pense, comme beaucoup de monde qui décide de partir un jour, c'était qu'il y avait un gros changement dans ma vie. En l'occurrence, j'avais eu une histoire longue avec ma copine de l'époque. Ouais. Et ça s'était terminé. Et j'étais parti dans une voie très plan-plan, avec une vie sur les rails, l'appartement, la vaisselle Ikea et tout le merdier.
Ouais.
Et donc cette histoire s'est finie, ce qui était en fait très bien parce que c'était c'était la fin de l'histoire, il n'y avait pas ni de regrets ni rien.
Ouais.
Mais c'est posé la question, est-ce que c'est vraiment le genre de vie que je veux ? Est-ce que j'ai fait ça par défaut parce que tout simplement c'était le modèle ambiant que je voyais autour de moi ?
Bien sûr.
Et donc j'avais toutes ces interrogations et comme toi tu étais parti en tour du monde, dans mon interrogation, je m'étais demandé, bah tiens, ça fait partie des options potentielles de aussi faire ce voyage quelque part sur un autre continent. Sachant qu'à la base, j'avais pas du tout l'esprit de voyageur.
Ah non, je confirme, pas du tout. C'était plutôt l'esprit exploration du salon et peut-être même de la salle de bain. Mais déjà, c'était
tu vois, déjà la salle de bain, déjà c'était déjà une petite aventure déjà.
Bah, parce que c'était plus le lavabo de la cuisine, tu vois, d'habitude.
Et donc, c'est pour ça que je t'avais demandé ce déjeuner pour te demander conseil, parce que j'étais un petit peu flippé, en fait, à l'idée de partir.
Pourquoi ? C'est quoi à ce moment-là, qui te disait, je vais entamer un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle vie, ou en tout cas, j'ai besoin de trouver des réponses. T'as peut-être envie d'explorer la piste du voyage, mais qu'est-ce qui... comme tu dis, te faisait flipper par rapport à ce thème-là, cette potentielle voie-là.
Ce qui me faisait flipper, c'est que, on va dire, je pensais que ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité.
D'accord. Qui était quoi par rapport à ce que...
Très casanier, très pantouflard, à peine je partais en vacances en fait.
Ouais, ouais.
Même pendant les périodes de vacances traditionnelles, ouais. Parce qu'à l'époque j'étais employé,
ouais.
Ça me disait rien de partir en vacances. D'ailleurs, c'est toujours le cas quand c'est des vacances organisées, les tours opérateurs, etc. Ça m'intéresse toujours pas, mais j'imaginais pas d'alternative vraiment à ça.
Uh-huh.
J'avais également vu tes vidéos, parce que t'étais parti avant moi.
Ouais.
J'avais vu tes vidéos et quand je voyais ce que tu faisais, je me disais mais ça c'est pas du tout pour moi. Je pourrais jamais faire ça, ça me correspond pas, etc. Uh-huh. Et en fait, je me souviens d'ailleurs quand on avait déjeuné ensemble, ma première idée, qui était une très mauvaise idée, c'était de partir seulement 3 mois et de rester aux Philippines, genre en mode glandage sur une plage, ça prend de temps, quoi. Donc le plan, en fait, qui est complètement pourri parce que. En fait,
tu remplaces ta salle de bain avec juste, tu mets des cocotiers dedans, en fait. C'était un peu pareil.
Exactement. Je voulais retrouver le modèle où, en fait, je bouge pas. Sauf que je voulais le faire à un endroit où il y avait du soleil et puis la plage, quoi.
Ouais.
Donc c'était forcément une très mauvaise idée. Après coup, quand j'y repense, ça me fait un peu sourire parce que forcément, rester 3 mois sur une, 3 mois sur une plage, forcément, tu vas te faire chier. Je pense qu'au bout de 2 semaines, tu vas péter un câble.
Alors, au bout de 2 minutes, déjà, tu commences à regarder ce qui se passe un peu autour.
Ouais, 2 minutes.
Quoique toi, t'es quand même un gros fan de lecture. Donc t'as quand même ce côté apaisant qui est important pour toi parce que tu peux pratiquer des choses que t'aimes.
Ouais, c'est vrai, mais même avec beaucoup de lectures, bon, déjà quand tu pars emmener 15 millions de livres.
Non, c'est chiant.
J'avais quand même amené une liseuse, il me semble, à l'époque.
Yes.
Non, une tablette, j'avais ma tablette sur la, pareil, donc ça, je l'ai regretté ensuite, parce que du coup, j'étais plus du tout dans l'esprit de lire, j'ai bougé tout le temps.
Ouais.
Et donc, je m'imaginais, en fait, ce que j'imaginais de mon voyage et de
C'est
ce qui s'est
ça.
passé,
C'est ça. Qu'est-ce que tu avais en
c'était.
tête finalement? C'est ça?
Bah, c'était un peu difficile de me projeter, mais j'imaginais rester longtemps dans des endroits parce que je connaissais ma personnalité. Ce qui s'est passé d'ailleurs au Laos, quand même, faut le préciser. Au
Ouais.
Laos, je suis resté 3 mois en tout dans le pays et deux
Sur les
mois
6. Sur les 6, c'est ça?
sur les 6, je suis resté la moitié du temps au Laos.
D'accord. On y reviendra après, tu vas voir.
On
C'est
y
important.
reviendra parce que le Laos, c'était quand même bah, c'est la plus grosse part de mon voyage et c'est aussi mon énorme coup de cœur d'Asie du Sud-Est, quoi.
Yes.
Mais donc, ce que j'imaginais, oui, j'avais un peu de mal à me projeter, c'était un peu l'inconnu, c'était l'aventure, c'était. Mais je pense, en fait, j'ai découvert des aspects de moi-même bah, qui, depuis, enfin, qui ont changé ma vie, en fait, parce que tu m'imaginais casanier, etc.
Ouais.
Et depuis ce voyage, en fait, bah, j'ai pas arrêté d'aller à l'étranger, j'ai vécu tout le temps à l'étranger, et je vois plus revenir à l'état d'avant, quoi. Même si, forcément, j'ai moins bougé que certains voyageurs, parce
Ouais.
qu'il y en a, y a des voyageurs qui voyagent à un rythme assez effréné.
Ouais.
Toi, par exemple, je pense que tu voyages à un rythme assez effréné.
Un petit peu plus speed, mais c'est pas forcément bien, au contraire. C'est j'admire beaucoup, je pense qu'il faut le voyage c'est à chaque voyageur son type de voyage et son style et sa personnalité. Enfin, tu vas 6 mois en Asie du Sud-Est, chacun va le vivre de façon différente et il n'y a pas de meilleure façon, c'est au contraire un voyage t'es vu que tu n'as plus d'impératif de ton quotidien, faut juste s'écouter en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand tu as décidé de te dire, putain, waouh, ici ça me correspond, je bouge pas pendant 3 mois, ben c'est que ça répondait à un besoin aussi, tu vois.
C'est
Et
ça.
il y a pas mal de voyageurs, malheureusement, qui sont là, genre, bon, j'ai 6 mois, faut que je voyage tout ça, faut que je vois tout ça, tout ça, tout ça, et si je vois pas ça, c'est pas bien, c'est que j'aurais pas fait mon voyage. Non, c'est pas bon.
Ben, j'avais rencontré un couple comme ça, c'était ben, en Thaïlande, un
Ouais.
couple qui venait de Nouvelle-Zélande. Et donc à ce moment-là, ça faisait déjà bien 2 semaines et demie que j'avais commencé mon voyage.
Ouais.
Et eux, ce qui m'avait surpris, et je pense aussi que c'est une assez mauvaise idée, ils faisaient un trip de 4 mois, donc c'est assez long quand même. Et ils avaient non seulement tout planifié, mais tout booké à l'avance.
Oh! Ah
Donc,
ouais.
booké à l'avance.
En
Donc, en
Asie en
fait,
plus, c'est ouais,
ouais.
c'est.
Donc, je trouvais ça un peu dommage parce que du coup, bah, tu te fermes des possibilités, tu es obligé de suivre un plan initial que tu as fait quand tu n'étais
Ouais.
pas sur place. Donc, forcément, tu t'as beau te renseigner sur Internet, il y a beau avoir toutes les informations, etc. Il y a la part du hasard, il y a la part aussi des envies comme ça spontanées. Tout ça n'est pas possible, en fait, n'est pas permis. Ou
Bah
alors est
clairement.
permis dans les fenêtres où tu t'es autorisé dans ton plan, mais ça marche pas des masses non plus, quoi.
Non, puis comme tu dis, quand tu parles dans ce genre de voyage, c'est-à-dire hein, juste se laisser aller, lâcher prise, etc. Si déjà dans ton timing du quotidien, c'est très rigide, tu peux pas vraiment expérimenter, aller chercher un peu les réponses dont tu as besoin. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur ce côté tu flippais ou tu te demandais. En fait, tes grandes craintes, si je reprends, c'était surtout de te dire c'est pas pour moi en fait. C'était ça en
C'est
fait
ça,
qui.
ouais. C'était de me dire que c'était pas, que ça correspondait pas au type de caractère que j'avais,
Ouais.
sans comprendre qu'en fait, le voyage, il n'y a pas de type de caractère qui est adapté au voyage. Il y a tout simplement des gens qui voyagent différemment. Mais il n'y a pas un esprit de voyageur. Il y a des voyageurs qui ont chacun leur personnalité et qui, ben, forcément, composent avec leur personnalité et font des choses différentes. Il va y avoir des gens qui vont être à la recherche de tous les spots possibles dans le coin. Et moi, plus essayer comment dire, de rester assez longtemps dans chaque endroit, enfin pas tous les endroits, mais certains endroits,
Ouais.
pour m'imprégner de l'endroit et avoir une espèce de mini-vie locale, en fait.
Complètement. Complètement. Je pense que le voyage, faut le voir comme un grand terrain de jeu où chacun va s'amuser à sa façon, en fait. Et quand je dis s'amuser, c'est toujours dans le respect des coutumes locales, on est d'accord, on fait pas n'importe quoi, hein, c'est pas Yalla. Mais c'est super important. Justement, à partir du moment où tu avais ces peurs-là, et que tu t'es quand même, parce que tu t'es quand même lancé dans cette aventure. Moi, j'essaie de te dire déjà, tu pars pas 3 mois, tu pars 6 mois, et encore, quand tu m'as dit 6 mois, je t'ai dit, pars un an. Je t'assure, parce qu'au bout de 6 mois, tu seras en jambes, mais ça va être dur de rentrer. T'es parti 6 mois, mais comment ça s'est passé clairement? Donc, un mec qui part quand même, malgré certaines craintes, certains doutes, etc., mais t'y vas quand même, ça c'est fort. Comment s'est passé le premier jour, ou les premiers jours, ou la première semaine? Comment s'est passé le départ? Avec tout ça, t'avais tout ça en tête.
Alors, tout premier jour, quand j'ai pris l'avion,
Direction.
direction Bangkok,
Yes.
avec une escale à Ho Chi Minh, si je me souviens bien.
OK.
Mais c'était juste une escale. J'y suis retourné après, mais donc là, pour le coup, c'était une escale. Quand je suis parti, je pense que j'étais, le jour de mon départ, j'étais déjà préparé psychologiquement. Et du coup, je me suis dit, eh ben, pour 6 mois, ce qui à l'époque me semblait l'éternité, je vais être libre.
Ouais, d'accord.
Et donc, j'avais une immense sensation de liberté. Je me souviens que j'étais aussi très ouvert vers les autres et que j'avais envie d'engager la
D'accord.
conversation avec n'importe qui autour. Parce que pour moi, comme ça me paraissait exceptionnel, j'avais envie de partager ça. J'étais de bonne humeur forcément. Je me disais, bah voilà, j'ai 6 mois où ça va être 6 mois pour moi. Je vais pouvoir penser à moi. Donc dès l'avion, en fait, je me suis mis dans le bain assez rapidement. Après, j'avais encore quelques craintes quand je suis arrivé, mais je me souviens que dans l'avion, j'avais rencontré aussi quelqu'un qui partait. Alors là, c'était un peu différent parce qu'elle, elle partait au Cambodge pour travailler pour une ONG.
Ouais.
Et donc, on avait passé tout le vol, qui était assez long, à papoter un peu au grand désespoir des
Des gens d'à
voisins,
côté.
voilà, qui voulaient dormir en fait.
D'accord, c'est ça?
Mais comme j'étais un peu surexcité par cette expérience,
Ouais.
du coup, j'avais attrapé la voisine d'à côté pour parler, et puis elle était contente aussi, parce que c'était aussi, je pense, pour elle, la première fois qu'elle partait en Asie, et puis en plus, elle s'est installée là-haut pour travailler, donc
Ouais.
c'était. Et je me suis mis assez vite dans le bain, du point de vue, comment dire, ça y est, les barrières sont tombées, maintenant, je fais un peu ce que je veux, dans le sens où je vais où je veux. Je suis mes envies.
Personne qui est là pour me casser les couilles d'aller faire la vaisselle, de ranger le truc, de rendre tel projet, d'envoyer tel email, c'était un
Et
peu
puis,
ça, c'était juste taisez-vous,
c'est
je
surtout
me fais
ça en fait. C'est
kiffer.
surtout ne pas avoir de boss, par exemple, ou de clients, ou machin. En fait, c'est les contraintes qui se lèvent. C'est des contraintes sur le planning qui se lèvent
Ouais.
et qui te permettent d'envisager un peu. Tout ce que tu peux faire, même si j'avais pas beaucoup d'idées quand je suis parti, j'avais pas beaucoup d'idées de ce qui allait se passer. Hein. C'était
Ouais.
juste que j'avais un énorme sentiment de libération.
Ouais. Ce qui est déjà pas dégueu, quand même, pour
Ce que j'ai,
commencer.
ce qui est très
Hein?
bien,
Ce qui est
c'est très
plutôt
bien.
sympa, hein?
Donc quand je suis arrivé là, je suis arrivé à Bangkok
Et
et
là, ça a dû être une belle claque, quand même. Le mec sort pas de sa salle de bain, il arrive à Bangkok, quoi. Genre, il y a des niveaux dans tous les sens, au niveau des bâtiments, des autoroutes, ça gueule, c'est du tuk-tuk, ça klaxonne, ça sent bon, on a envie de manger de partout. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Il faisait chaud
Il
aussi, il faisait
fait
très très chaud et une
72 000
chaleur
degrés
moite.
de pourcentage d'humidité.
Alors la première nuit, en fait, j'avais réservé dans un hôtel quand même.
Ah le mec!
C'était une transition, bon, c'était une transition rapide mais douce parce que j'avais booké dans un hôtel, je sais plus lequel, qui était assez haut de gamme, avec la clim, etc.
Ah
et
le
machin.
mec! D'accord! Safe! On l'a
Donc le
joué
premier
safe le premier
jour,
soir.
c'était safe. Donc dès le deuxième jour, j'ai dû chercher une guest house.
Ouais.
Et donc je me souviens que comme j'étais parti en mode bah voilà maintenant ça va être la débrouillardise et je sors de ma zone de confort, je m'étais donné comme pari de ne jamais prendre le taxi ni les tuk-tuks.
Ah, beau gosse, parce qu'à Bangkok, mon pote, pour lire en thaï, c'est chiant.
C'est chiant ouais, c'est très très chiant. Mais on peut demander aux gens, certains sont quand même assez dispo pour t'aider même si l'anglais c'est quand même un petit peu un problème.
Ouais.
Donc j'avais fait de l'aéroport déjà, j'étais venu en métro,
Ouais.
parce qu'il y a un métro.
Exact.
Et ensuite, je pense que j'avais pris le bus. Et à part... Et,
Tu sais
non,
bien
le
jouer,
bus,
j'ai bien joué.
c'est un peu la... Comment dire?
La loterie.
C'est la loterie,
Ah
exactement.
ouais, moi ouais,
Parce
je vois
que
très bien.
qu'en plus, j'avais demandé à des gens qui montaient dans le bus si c'était la bonne direction. Et je me souviens que je descendais à leur arrêt. Et les mecs étaient incapables de me répondre, quoi. Donc, je sais pas si je prononçais mal
Oh
ou quoi que ce
putain.
soit. Et quand j'ai vu qu'ils descendaient à mon arrêt, je m'étais dit, mais en fait, ils sont nuls, c'est pas possible. Parce que là, j'ai demandé
En
l'endroit
fait,
où
ils te suivaient
descendre.
toi. En fait, ils te suivaient toi. Ah, mais tu vas où toi? Parce que nous, on te suivait. En fait.
Mais c'était détail, hein. Mais en fait, quand même, mais en fait, c'est un truc normal. Mais quand tu es en voyage, souvent, tu te déplaces avec des cartes.
Exact.
C'est des petites cartes qu'il y a dans les guides, soit le Lonely ou soit le guide routard ou peu
Soit
importe.
Google Maps, si tu l'as en local.
Les Google Maps. Bon, moi, j'ai voyagé sans smartphone aussi, mais d'ailleurs, j'ai toujours pas de smartphone, mais je voyageais sans smartphone, donc j'avais pas de.
Oui, internaute, mon cousin est un extraterrestre, j'ai une famille assez hors norme et j'en suis assez fier. Et ça, non, mais ça, parce que il y a un côté aussi où, surtout aujourd'hui, ton smartphone, c'est un peu le lien qui te rattache aussi à toutes tes obligations. Les obligations de donner des nouvelles à des gens, les obligations de oh bah attends, t'es parti, mais on a oublié de te demander ça, de ceci, de cela. Au moins, le fait de pas avoir de téléphone, quand tu veux te plonger dans le voyage et tu veux te plonger surtout dans quelque chose d'initiatique, c'est une bonne façon de vraiment le faire si t'as pas de téléphone ou si tu le ranges profondément dans ton sac et que tu l'utilises sporadiquement pour des choses vraiment précises.
C'était ça aussi. Bon, pour le téléphone, c'est une philosophie que j'ai en général, parce que je veux pas être, comment dire, perturbé ou quand je sors, je veux pas avoir sans arrêt des notifications qui détournent mon attention. Mais là, en l'occurrence, bah ça allait bien avec le voyage, parce que du coup, quand je sortais et que tout était dans mon sac, bah j'étais vraiment dans la ville ou à l'endroit où j'étais. J'avais rien qui me rattachait à la France. Donc j'étais en immersion totale, on va dire.
Ouais,
Quand
c'est ça.
dès que je prenais mon sac, c'était parti.
C'était le bordel.
Et donc je m'en souviens que j'avais cette chambre à l'hôtel, qui était du côté, je crois, du côté du centre, du quartier des affaires de Bangkok. Donc encore un petit peu moderne, encore, tu vois, un petit
Ouais,
peu
encore
développé.
un peu safe, voilà.
Voilà, un peu safe. Et je m'étais déplacé du côté de Khao San Road. Alors c'était pas sur Khao San Road, c'était
Ah,
un
on
peu
arrive
plus
dans le
loin.
dur, on a...
C'était un peu plus loin, mais pas si loin que ça. Ça devait être, je sais pas, à 500 mètres de Khao San Road.
Ouais. Pour ceux qui ne sont jamais allés en Thaïlande, Khao San Road, c'est la grosse rue très touristique avec beaucoup de bars, beaucoup de boutiques de Bangkok. Et donc il y a de tout. Il y a le bien comme le malin ici dans cette rue.
Comme le malin,
Le
exactement.
malin est présent dans cette rue. Donc ne dors pas. Si un jour tu vas à Bangkok, vas-y, mais ne dors pas dans cette rue. Essaie d'éloigner un peu parce que le soir, le malin est présent. Voilà.
Bah c'est ce qu'on m'avait conseillé aussi, bah de prendre quelque chose qui soit pas très loin de Khao San Road, parce que c'est là où c'est animé, etc. Mais qui
Effectivement.
soit pas la guest house, ne soit pas dans Khao San Road. C'est un peu décrit comme le sas de transition pour ceux qui arrivent, mais qui arrivent en Asie, parce que du coup, à Khao San Road, il y a beaucoup, beaucoup de backpackers.
Ouais.
Et il y a quand même très peu de chances de rencontrer des Thaïs dans Khao San Road. Ou si tu vas, enfin, on va rencontrer des Thaïs, mais ça va être des gens qui vont te vendre bah, les scorpions sur les bâtonnets
C'est
ou
ça.
les trucs ultra touristiques. Ceux qui veulent t'emmener dans des shows, pas forcément.
C'est ça. Plutôt
Voilà.
dénudé, plutôt dénudé.
Plutôt dénudés, exactement. Donc, c'est plutôt le genre de personnes qui vont t'aborder quand tu es sur Khao San Road ou des backpackers. Donc, je m'étais un peu éloigné, j'avais eu raison. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais bien qui m'avait conseillé la guest house.
Ah ouais, c'est qui?
Bah, je pense que c'est quelqu'un que tu connais très bien.
Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, c'était une bonne reco?
C'était une très bonne recommandation. Malheureusement, je me souviens plus du nom.
Ah mince. Le mec, il fait un gros teaser sur sa petite guest house, pas loin de Khao San, avec des petits trucs machin,
Mais
mais
je ne me
non.
souviens plus du nom, donc ça sera, bah voilà,
Ce
ça restera un
sera
secret.
la petite guest house qu'il faut trouver.
Exactement.
Et.
Et il y avait un rooftop dans cette guest house qui
Ouais.
était assez magique, parce que bizarrement, personne n'y allait. Je pense que les gens n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait ce rooftop avec une
Ah.
vue, une très bonne vue.
D'accord. Donc le mec continue à dire que c'est génial sans donner l'endroit. Et ça, c'est super.
Je me souviens que j'avais lié d'amitié très rapidement avec une partie du staff.
Ok.
J'étais parti faire du badminton dès mon deuxième jour avec le staff de la guest house. Et j'étais super content de pouvoir.
Attends, t'es en train de me dire que t'as réussi à être pote avec des Thaïs à Khao San Road?
En 2 jours, ouais.
Ah ouais, alors là déjà le mec, il y a du respect parce que le mec a jamais voyagé dans un sac à dos et il arrive à se faire pote avec des Thaïs Khao San Road qui sont plutôt orientés, je vais te prendre de l'argent et voilà, t'as un portefeuille. Mais comme quoi, tu vois, quand on est focus sur l'instant présent et qu'on est ouvert d'esprit, bah même à Khao San, on peut faire des super rencontres.
Ouais, c'est ça. En fait, le truc qui avait déclenché bah, cette connexion, c'est que j'ai vu qu'il y avait une guitare posée dans un coin de la guest house.
Ouais.
Et je dis, ah bah tiens, je peux emprunter la guitare et jouer. Et il y avait une des filles du staff qui m'avait demandé, qui avait sorti un book avec plein de chansons, qui m'avait
Ambiance
demandé, ah
karaoké.
tu peux,
Ambiance karaoké.
exactement, ambiance karaoké. Et comme les Thaïs sont fans de karaoké,
C'est ça.
Des fois, il ferait mieux de ne pas chanter parce que des fois, c'est horrible hein, dans les bus quand il y a tout le monde qui chante faux
Ah bah.
et que toi, tu veux dormir. Bon, c'est un
Mais
peu
c'est
la.
ça le truc. Ouais, mais c'est ta vengeance, c'est ton châtiment du vol Paris-Bangkok où tu as tchatché toute la nuit quand il y a des gens qui voulaient
C'est
dormir.
ça, c'est ça, c'est le karma.
C'est tout.
C'est un retour de karma.
Exactement.
Mais là, en l'occurrence, ça m'avait donc permis bah, de faire connaissance avec, avec cette fille du staff. Et puis, le lendemain, donc j'étais resté 3 jours, je crois, dans cette guest house.
Ouais.
Et le lendemain, elle m'avait dit, bah, tu veux aller jouer au badminton avec mes amis et moi? Et moi, j'avais dit, bah oui, bien sûr.
Ah, génial.
Et du coup, on était parti faire une petite partie de badminton.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es senti à l'aise dans le voyage? Parce que entre le moment où tu t'es chez toi et tu te dis ok, j'y vais, mais bon, c'est totalement l'inconnu, je sais pas ce qui m'attend, et le moment où tu dis ah, je suis en train de vivre un truc bien, là, je suis cool, je me sens à l'aise, je me sens là où je dois être. C'est à ce moment-là ou c'est arrivé encore un peu après?
Non, ça arrivait après parce qu'à ce moment-là, en fait, ce que je faisais, ça a duré à peu près 2 semaines ou 2 semaines et demie.
Ouais.
Et c'est là où pour revenir à ta question sur ce qui me faisait peur,
Ouais.
c'est que pendant 2 semaines, je bookais à l'avance pour les prochains jours.
D'accord. Ok.
En général, je faisais la veille ou l'avant-veille.
D'accord.
Et je bookais, voilà, je bookais là où j'allais dormir en fait. Et j'ai arrêté parce que déjà j'ai vu que les autres ne le faisaient pas, pour commencer. Et en
Et
plus,
qu'en plus tu peux pas négocier potentiellement, en plus t'es près de.
déjà tu peux pas négocier, tu vas payer un peu plus cher. Et quand j'ai vu la facilité avec laquelle on peut trouver un logement enfin dans une guest house dans la plupart des villes,
Ouais.
du coup je me suis plus inquiété. Et je pense que c'est là où vraiment j'ai commencé à mettre dans le bain. D'être vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que du coup, je me souciais plus de booker pour les jours suivants. Je me contentais d'aller sur place et je me disais de toute façon, au pire, bah voilà, tu passes une nuit dehors, c'est le pire qui te peut arriver. Ça m'est jamais arrivé, hein,
Et
mais
c'est. Non, mais il faut comprendre que ce scénario-là n'arrive jamais en fait.
ouais.
À moins que tu sois bourré, que tu aies vomi partout dans ta guest house et que tu te sois fait virer, ce qui
Mais
peut arriver.
même comme ça, tu vas à celle d'à côté, je pense
Ouais.
qu'il n'y a pas de problème.
Bonjour. Tu te laves un peu la gueule et c'est bonjour, je suis arrivé un peu tard ce soir. Donc, ouais, c'est vraiment exactement ça le scénario. C'est peu importe où tu vas dans le monde, à part peut-être dans les pays occidentaux où ça va être. Bah, plus des hôtels, c'est moins des petites guest houses, c'est moins des auberges de jeunesse, il y en a quand même moins, que ce soit aux États-Unis, Canada, Australie, France, etc. Et encore, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent en sac à dos. Tu peux y aller à l'arrache, quoi. Tu peux y aller, et c'est
Alors,
vraiment cool.
en Europe, ça, je pense que je le conseillerais pas forcément non plus, surtout dans les grandes villes, on va dire.
Bah, dans les grandes villes, et mois, style juillet-août, parce que bah, il y a tous les gens du monde entier qui viennent en Europe, et ça peut vite être en fait, blindé, en fait.
Bah, c'est ça. Je prends juste l'exemple de Hambourg, là où je vis actuellement.
Ouais.
Et je sais que les guest houses, enfin les guest houses, les auberges de jeunesse à Hambourg,
Ouais.
si c'est pendant l'été, il faut booker. Parce qu'il y a
Ok.
des chances que ça soit plein.
Ok. Surtout les bonnes, j'imagine.
Surtout les bonnes. Mais en plus, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Depuis qu'il y a quand même Airbnb qui est en place,
Ouais.
il n'y en a pas non plus des masses.
Ok.
Mais après, bon, c'est Hambourg. Hein. Donc, c'est la deuxième ville d'Allemagne en termes de population.
Ah ouais.
Donc, c'est une très grosse ville.
Ouais.
Et je pense que c'est un peu différent quand on sort bah, des très grosses villes, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Non, mais je suis d'accord. Par rapport aux raisons pour lesquelles justement tu étais parti au début, les raisons c'était de waouh, j'ai peut-être besoin de m'aérer l'esprit, de savoir un petit peu où je vais. Et du coup, la raison aussi pour laquelle tu as choisi le voyage pour pouvoir trouver ces réponses, est-ce que ça a très vite répondu à ça, ou ça a mis du temps, ou ça a été un long process pour trouver. Tu vois, te dire, ah ok, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris de ce dont j'avais besoin. Ça a pris combien de temps sur les 6 mois?
Alors, en fait, je vais un peu modifier ta question parce que
Bah
je pense
vas-y,
que.
non mais y a pas de problème, on est entre amis, on est mal en famille, alors vas-y. Hein.
En fait, mon point de vue sur ça, c'est que si on part pour se chercher et qu'on a tout le temps cette question en tête, ça ne marchera pas. Même si c'est ce qui motive le voyage,
Ouais.
je pense que cette question-là, il faut très très vite l'oublier parce que, en vérité, enfin, c'est mon point de vue,
Ouais.
je pense qu'on est ce qu'on fait.
D'accord.
Et si. On se cherche, on n'est rien d'autre qu'une personne qui se cherche, puisque ce qu'on fait, c'est se chercher.
J'aime bien. Développe.
Et donc, je disais qu'il fallait oublier cette question très vite parce qu'on se réalise et on découvre des aspects de soi-même comme moi j'ai découvert quand par exemple j'ai acheté ma motobike au Laos.
Ouais.
Parce qu'on arrête de se poser la question et qu'on est dans l'action et dans le moment. Et cette question, elle n'est pas là. C'est après coup, on se dit, tiens, je ne me serais pas cru capable de faire ça ou je n'aurais pas pensé que j'aurais acheté une motobike parce que ce n'était vraiment pas mon truc. Les motos et la mécanique, c'était pas du tout. Ça ne correspondait pas à mon profil de base.
Pas trop.
Et donc, si, je pense que si on part, alors forcément, on peut partir avec la question de se chercher, etc. Mais je pense que cette question, il faut assez vite l'oublier et expérimenter.
Et alors,
de découvrir les aspects de soi-même parce que du coup, on ne se pose pas la question. Ouais. Et on n'est pas dans l'optique de se trouver, on est dans l'optique de découvrir des aspects de soi qu'on n'aurait pas imaginé.
Génial. Et j'adore ce que tu dis. Franchement, je trouve que c'est l'aspect est tout cool. C'est de se dire, on se réalise et on se découvre dans l'action. C'est ça. Et du coup, c'est parce qu'on va faire. Mais alors, comment tu as choisi du coup les choses que tu allais faire?
Alors, il y a une grosse partie de hasard, mais il y a aussi.
Tu t'es laissé porter par les rencontres, par les hasards, par ton instinct.
Alors, il y a les rencontres qui jouent énormément. Et puis au fur et à mesure au fil des jours, on va dire, on commence à se sentir de plus en plus à l'aise.
Ouais.
Ouais, du coup, on a envie de tenter de plus en plus de choses.
Tu veux dire que tu repousses un peu ta zone de confort, enfin ta zone de confort devient de plus en plus grande et tu vas chercher à chaque fois à l'agrandir.
C'est ça. Donc au début, on est très étriqué dans ses chaussures, on se dit « Ah non, là, je vais pas faire ça parce que j'ai un peu peur ou je sais pas où ça va m'emmener, etc.
Ouais. »
Puis après, on prend le bus, on sait même pas c'est le bus où il va, tu vois. On verra bien où il m'emmène celui-là.
Ah, il est joli, vas-y, on monte dedans.
Et donc, tu achètes ton ticket, on te dit « dans le bus que tu voulais, il n'y a plus de ticket. » Tu fais « Bon, bah il y a des tickets, pourquoi ?» Ce bus-là, tu fais « Bon, bah allez, c'est parti, je prends ce bus-là. »
Génial.
Et ce genre de choses, en fait, c'est le process, de toute façon, au bout d'un moment, je pense que tu arrêtes de te poser des questions. Si tu es en voyage long, tu arrêtes de te poser des questions parce que tu as des choses à faire, quoi. Et je pense que les gens qui se posent des questions, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui se posent des questions, notamment celles de se chercher, de qui je suis, etc., en général, c'est des gens qui sont au bureau. C'est pas ceux qui sont en train de voyager avec le sac à dos sur le dos.
C'est vrai.
Et qui sont en train de marcher, qui sont en train d'explorer.
C'est vrai,
ils se posent plus la question. Ils sont dans le moment, ils sont en train de découvrir, ils ont les yeux grands ouverts, ils sont en train de se dire tiens, à quoi correspond ce monument ou ce rituel que je suis en train de voir, etc.
Il y a aussi ce phénomène de faire des choses nouvelles, t'apporte des nouvelles idées en fait. Et t'as même pas besoin de chercher, c'est que le fait de sortir d'un schéma quotidien qui est presque sans saveur au bout d'un moment parce que tu l'as éprouvé et rééprouvé, quand tu es dans un nouveau schéma de « Tiens, je monte là-bas, je pourrais faire ça, mais attends, ce petit mec, regarde, il fait des petits sacs à main trop stylés, mais nous, on pourrait le réadapter, on pourrait faire un business. » Enfin, tu sais, après, tu as des idées de business, tu as des idées de métier, tu as des idées de formation, mais c'est même pas que tu le cherches, c'est que tu le vois, c'est que tu l'expérimentes en fait.
Ouais, tu l'expérimentes et puis sans, sans même parler business, je pense que la majorité des êtres humains ont besoin d'activité. On peut pas, je crois pas au mythe du feignant. Je pense que c'est une part minime de la population, vraiment minime, ouais. Et que la plupart des gens, s'ils restent à rien faire, en fait, ils dépriment, en fait.
Ouais.
Et donc, forcément, quand tu t'arrêtes quelque part, tu vas trouver, je pense, des activités très facilement. Je pense, par exemple, quand j'étais au Laos, dans ce village où je suis resté 2 mois.
Ouais. Est-ce que tu te souviens au moins de ce village?
Oui, c'est en fait le nom du village. Alors, le nom du village m'échappe. Mais
T'as pas.
En fait, ça correspond au village qui est à côté de Tadlo.
Tadlo.
La cascade. En fait, sur les guides, c'est pas marqué le nom du village. C'est un nom en plus qui est assez imprononçable.
D'accord.
Le village.
Tu sais que ça leur ferait de la peine. Je dirais pas, mais ça leur ferait de la peine que tu te souviennes pas du nom du village où tu es resté avec eux.
C'est vrai. Surtout qu'en plus, moi aussi, j'ai eu beaucoup de peine à partir. Franchement, c'était un peu un brisqueur quand je suis parti, parce que j'étais très attaché aux gens avec qui je suis resté. Et puis en plus, comme j'étais devenu prof d'anglais dans ce village...
Ça aussi, c'est un problème. Connaissant ton niveau d'anglais.
Connaissant le niveau d'anglais des gens sur place, je veux dire, le prof d'anglais était encore pire que moi.
Ah ouais,
Donc, à la limite, tu
Hello.
Vois, c'est très potent. Bon, à la fin, c'est moi qui ai plus appris le laotien que eux, l'anglais. ce qui était très bien pour moi, hein, ce qui m'a permis d'avoir des conversations laotiens et puis de m'intégrer encore plus vite dans ce village.
Yes.
Et en fait, sur les guides, le village est indiqué par le nom de la cascade la plus proche, qui est Tadlo,
Ouais.
et qui est une cascade très très haute et avec un magnifique point de vue quand on y monte, qui doit être au moins, ouais, qui doit bien être à 30 mètres de hauteur, je pense.
C'est vers quel coin? C'est plutôt nord, milieu, sud?
Non, c'est le sud, ouais,
Plutôt
plateau
dans...
des Boloven.
Ah, t'étais dans le plateau des Boloven? Oh là là, putain, j'adore, c'est ma région préférée
Ouais, c'est
du Laos.
super.
Moi, je te l'avais recommandé et je pensais que t'allais accrocher, mais pas à ce point-là, effectivement. Rester 2 mois, je pensais pas. D'ailleurs, je crois que c'est le moment de nous dire quel a été ton itinéraire et après nous avoir dit rapidement ton itinéraire. Comment tu l'as choisi en fait? Déjà, non, plutôt, comment t'as choisi ton itinéraire et qu'est-ce qu'il a été dans les faits?
Alors, mon itinéraire, il était plus ou moins global,
Ok.
c'est-à-dire que j'avais une idée des pays que je voulais faire,
Qui
mais j'avais
était?
pas de, qui était donc la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Je pensais à l'Indonésie, mais finalement j'ai pas été.
Ouais.
Les Philippines, la Birmanie, je pensais aussi, mais j'ai pas
Ouais.
été. J'ai un peu
Ouais.
regretté de pas y aller. Donc, ces pays-là, j'avais voilà une vague idée.
Que c'était un peu dans les cartons qu'il fallait peut-être y aller.
Voilà, exactement. Après, je voulais pas non plus faire de plan extrêmement serré. J'avais plus ou moins une idée au tout début de la Thaïlande, parce que je m'étais dit que j'allais depuis Bangkok, j'allais directement aller dans le nord.
Ouais.
Je voulais pas commencer par le sud et les plages et les
Ambiance.
etc.
Ambiance tough. Coke, prostitution.
Donc
Attention,
voilà,
enquête exclusive sur le sud de la Thaïlande.
c'était pas du tout ce que je cherchais. Et donc je suis parti au nord de la Thaïlande et j'avais plus ou moins l'idée que j'irais au Laos.
Ok.
Et en gros, c'était ça mon plan. J'avais une liste de pays. Je ne savais pas ni dans quel ordre, ni si j'allais vraiment les faire.
Ouais.
Et je m'étais dit, voilà, bon, pour commencer, je vais partir de Bangkok, je vais aller au nord de la Thaïlande et après, je verrai si je vais en Birmanie ou au Laos.
Yes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as pris ta décision?
Alors, pareil, une rencontre. Je suis
C'est une
allé à
fille?
Chiang
C'est une
Rai.
fille?
Ah non, pas du tout. C'est un mec.
Je pense que
En fait.
tes parents vont écouter ce podcast. Si tu veux faire un coming out, c'est maintenant.
Non, mais ça va. Non, je pense qu'ils n'ont pas trop de doutes sur mes orientations. Mais, donc, j'étais à Chiang Mai. J'ai atterri à Chiang Mai
Ouais.
après m'être arrêté dans quelques villes de la Thaïlande.
Ouais.
Sur le chemin,
Ouais.
que d'ailleurs je voulais faire en train à l'époque, et malheureusement à cause d'une inondation,
Ah
le
merde.
train était coupé entre Lopburi et Chiang Mai. Donc Lopburi c'est légèrement au nord de Bangkok, et
Ouais.
donc du coup j'ai pas pu y aller en train.
Ah, c'est
Et
con.
j'ai fait en bus. Mais par contre j'ai fait Bangkok Lopburi en train, et je conseille parce que le train c'est pareil, c'est partie des modes de transport qui sont utilisés par les locaux, et du coup bah il y a une sensation d'immersion assez immédiate.
Ouais, t'es plongé. En plus, il passe vraiment à ras les bâtiments. Enfin, c'est une autre dimension. T'es dans un autre univers. Hein. C'est quand tu vois l'ambiance sécurité et les normes chez nous, tu
Ah non,
rigoles là-bas.
et non, c'est clair.
T'es dans ton wagon, t'allumes la cigarette du mec qui habite dans sa baraque en même temps que tu passes, quoi. Enfin, il y a une proximité assez importante.
Quand tu arrives vers Bangkok, ouais, c'est vrai que le train passe très très près des bâtiments. Après, quand même, donc, tu peux quand même apprécier le paysage parce que rapidement, tu es dans la nature, quoi.
Ouais.
Et je crois que c'est à Lopburi, je suis plus sûr, où il y a la ville avec les singes.
C'est
C'est dans un
celle-là.
coin de
C'est
Lopburi, ouais.
celle-là. Non, c'est celle-là, c'est Lopburi en fait.
Ok.
T'as tous les singes qui se baladent de bâtiment en bâtiment. C'est quand même pour ça.
Qui est assez marrante. Bon, bah, c'est pareil, hein, c'est un arrêt à touristes, hein, parce qu'avec les singes. Mais c'est, enfin, les singes vivent vraiment dans la ville. En
Ouais,
l'occurrence, c'est pas fait pour que les touristes le viennent, c'est qu'ils vivent dans la ville et du coup ça attire les gens.
c'est ça.
Et j'avais vu d'ailleurs une scène assez marrante. C'était donc un commerçant thaï qui était arrivé avec son scooter. Il avait un gros pochon de pièces parce que certainement il voulait avoir du change dans sa caisse.
Yes.
Il avait un gros pochon de pièces et à ce moment-là, il y a un singe qui est passé, qui lui a choré le pochon de pièces. Le mec l'a regardé à moitié dépité et à moitié, tu sais, blasé en fait. Parce qu'à mon avis, ça devait pas être la première fois que ça arrive.
En fait, ok, ouais.
Le gars
Attends, mais...
a abandonné tout de suite parce que
Elle l'a
bon,
même
le
pas
temps d'arriver.
poursuivi!
Ah non, il n'a pas poursuivi parce que, en plus, le singe est monté très rapidement
Ah, le
sur le toit d'un
bâtard.
bâtiment.
Oh là là.
Et le mec l'a regardé en mode, bon, bah, ok, c'est bon, j'abandonne. Tout de suite. Il a même pas gueulé ni rien, il a pris ça, tu vois, en mode zen, il a fait, pff, ok.
Ambiance scène quotidienne à l'eau bourrée, quoi.
C'est ça. Mais ce qui était drôle, c'est qu'ensuite, le singe, parce que lui, le singe, je pense qu'il voulait de la nourriture.
Ah bah ouais, je pense pas qu'il ait joué aux machines à sous ou aux jeux d'arcade, tu vois.
Voilà, donc c'est très peu l'ambiance des singes, normalement. Donc il a ouvert le pochon, il a commencé à mastiquer les pièces, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas les manger. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il prenait les pièces, il les mastiquait et il les crachait sur les gens en bas.
Mais chacune de pièces, genre il a pas balancé tout le pochon.
Je pense qu'au bout d'un moment, ça a dû le faire marrer de cracher des pièces sur les gens, quoi. C'était quand même un gros pochon de pièces, donc il y avait de quoi faire.
J'ai craché sur 200 personnes aujourd'hui.
Et
C'est une
donc,
bonne journée.
il les essayait tous, ouais, il crachait sur les gens. Donc ça, c'était à l'aubury, c'était assez marrant. Puis forcément, t'as forcément un ou deux touristes qui se font piquer des trucs,
Ouais.
parce que les singes sont très très rapides et très agiles,
Ah ouais.
conformément à leur réputation. Et donc, il y en a toujours un ou deux qui se font piquer, bah, soit leur appareil photo.
Putain, ils
Moi, ce que
piquent les
j'avais
appareils photo aussi?
Bah, il faut faire attention aux appareils photo, parce qu'ils piquent tout ce qu'il y a à leur portée. Ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait, je crois que c'était une Allemande qui avait son appareil photo, heureusement, en bandoulière. Le singe est arrivé par derrière. Et a voulu lui tirer, mais comme il était en bandoulière, elle a pu le garder.
Ouais.
Mais pendant qu'il y a le singe, le premier singe qui tirait son appareil photo, il y a un deuxième singe qui est passé et qui lui a choré ses lunettes, en fait.
La meuf se fait racketter de partout, quoi.
Ouais, donc c'est pas du travail en bande, mais il y a de l'opportunisme quand même.
Et de l'opportunisme. Et tu crois qu'il y a des mecs qui les dressent ou pas?
Non,
Non,
je
pas à
pense pas.
l'Obouri. À l'Obouri, en plus, je pensais vraiment les
Non,
mecs ghetto, ils
parce qu'en
s'amusent.
plus. En plus, les thaïs aussi sont assez victimes de ça, donc je pense pas qu'il y ait des gens qui les dressent, ouais.
Ouais,
Je
non.
sais pas, hein, je sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça donnait pas du tout cette impression-là. Hein.
Ça c'est
Parce que
honnêtement.
le mec avec son pochon de pièces, s'il y avait eu un dresseur, j'imagine qu'il aurait ramené les pièces au dresseur au lieu de les cracher sur les gens.
Ouais.
C'est assez peu rentable, en fait, comme.
C'est pas l'activité. Ouais, peut-être qu'il était encore en formation celui-là, tu vois. On
Ouais,
sait
peut-être,
pas.
ouais.
On sait
Après,
pas.
il faut ramasser toutes les pièces pleines de baves, etc.
Ouais,
Donc,
chiant. Chiant.
c'est pas terrible.
T'arrives au Laos. Comment ça t'est venu l'idée et comment t'as réussi à acheter ta bécane et comment on fait pour acheter de bécane au Laos et puis après qu'est-ce qu'on en fait, tu vois?
Alors, le Laos, donc mon pays coup de cœur. Je suis
Clairement.
arrivé au Laos déjà, premier jour. Je crois que je suis arrivé, donc je suis arrivé par le nord.
Ouais.
Je ne me souviens plus de la ville, je crois que ça s'appelle Wat Chai, il me semble.
Ok.
Et donc, j'étais du côté thaïlandais un jour, il y avait le Mékong qui passait, j'étais sur une rive.
Ouais.
Et je voyais le Laos sur l'autre rive. Et je voyais que dans ce village, on commençait à préparer quelque chose comme une fête. Je voyais qu'on accrochait des lampions, donc c'était bon. Le Mékong, c'est assez large, donc je voyais pas distinctement depuis ma fenêtre, mais
Mais
je
tu
voyais
sentais qu'il y avait des petits trucs qui allaient se préparer.
je sentais qu'en face, il y allait avoir quelque chose. Et en fait, bah c'était, enfin, je sais pas si c'était un signe, mais en tout cas, je l'ai pris comme ça. C'est que je suis arrivé le jour où dans ce village, c'était la fête des lanternes.
Yes.
Donc dès le premier jour, c'était assez magique. Donc je suis arrivé l'après-midi. Donc l'après-midi, forcément, bah, il n'y a pas les lanternes. Je ne savais
Non,
pas.
c'est
Mais
vrai.
déjà, il y avait l'ambiance du village avec des tables installées dans les rues, des grandes tablées, les gens qui mangeaient aux tables, une ambiance assez festive. J'ai posé, en fait, en gros, j'ai posé un pas au Laos.
Ouais.
J'ai discuté avec une backpackeuse que je lui ai demandé une recommandation pour une guest house. Elle m'a indiqué. J'ai posé mon sac. Je suis sorti et à peu près 5 minutes plus tard, des Laotiens m'ont invité à boire de la bière avec eux sur leur terrasse.
C'est bon ça.
C'est là où j'ai appris qu'en fait, les Laotiens, pour boire de la bière, comme il fait très chaud, mettent des glaçons dans la bière. Ce
Exactement.
qui peut être très surprenant au début, mais c'est vrai que comme il fait très très chaud,
Bah.
ça passe. On a du mal à s'y faire, mais bon, ça passe. Au bout d'un
Non
moment,
mais
je comprends.
au début tu fais ton européen. Genre, tu sais, quand il dit Ice Cube, des glaçons, tu fais non, non, pas mettre des glaçons. Il t'apporte ta vieille bière là-haut, bien chaude. Tiens, cadeau. Après tu fais. Ah,
Un petit glaçon, s'il vous plaît.
bah c'est vrai que la bière chaude comme ça, c'est moins fun. Un petit glaçon, ça sera mieux.
Si je me souviens bien, en laotien, alors peut-être j'ai des conneries, mais je crois que glaçon, c'est Namcon.
Oh le mec, name dropping, ça envoie de là.
Ouais.
Ok, ça envoie du là-haut. Bim
Parce
bam.
que Si mes souvenirs sont bons, donc le laotien, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une langue très facile à apprendre.
Pourquoi?
Parce que la grammaire est très très simple.
C'est-à-dire?
C'est, bah, y a pas de conjugaison, par exemple.
Comme ça, il n'y a pas de conjugaison.
C'est-à-dire qu'un verbe, donc là j'en ai plus en mémoire parce que ça fait un petit peu longtemps, donc j'ai un peu oublié. Mais un verbe, c'est-à-dire qu'on va prendre un verbe et pour toutes les personnes, ça va être la même chose. Si je donne l'exemple de ce que ça donnerait en français, ça serait par exemple je être, tu être. Il être,
Ah,
nous
mais c'est un peu comme
être.
l'anglais alors.
Oui, mais non, mais l'anglais, t'as quand même de la conjugaison. I am, you are,
Ah
he
oui.
is.
Sur certains. Là, il y a zéro verbe où il y a ça, quoi.
Ah non, c'est. Voilà, la grammaire est faite comme ça.
Ah,
Tous les verbes, il n'y a aucune conjugaison.
Mais alors, comment tu fais futur et les temps quand tu fais ça?
Alors, le futur et les temps, pareil, j'ai peut-être me mélanger les pinceaux, mais si c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est que le passé, il y a un préfixe au verbe.
Ok.
Donc, on rajoute quelque chose devant le verbe.
Ouais.
Et le futur, on rajoute quelque chose après le verbe. Et même système,
Ça veut
c'est
dire, tu
pareil.
dis je passé mange ou je mange futur, c'est ça?
Exactement.
Ah, c'est pratique ça.
Donc la langue est très très simple d'un point de vue grammatical. Il n'y a pas d'article, si mes souvenirs sont bons.
Ça c'est pratique ça.
C'est très très pratique. Et d'un point de vue du vocabulaire, la plupart des mots simples sont monosyllabes,
Ah
donc
ouais?
assez facile à retenir. Et les mots un peu plus compliqués, en fait, sont composés de mots simples. C'est-à-dire, par exemple, là, l'exemple que j'ai donné, Namcon, si je ne me trompe pas, bon, ça serait quelque chose d'équivalent. Mais en fait, ça veut dire eau, caillou.
Ah ouais, d'accord. Mais c'est un peu les Américains, les mecs. Batman,
Ouais, mais ils ont poussé le
homme-chauve-souris.
concept très très loin. Ce qui fait qu'on peut apprendre, en fait, si tu connais deux mots, t'en connais trois, forcément.
Ah, mais attends, c'est comme les Pokémon, faut savoir la combinaison, ce que ça fait quand même.
Ouais, faut
Parce que
savoir la composition.
Okaoyu, en fait, ça veut dire fontaine. Enfin, tu sais, genre, faut le savoir quand même.
Faut savoir, mais une fois que tu le sais, c'est tellement, on va dire,
Évident.
évident et visuel que ça fonctionne. Je sais que l'autre mot, alors je me souviens plus de comment on dit,
Ouais.
mais en termes de combinaison, lait, c'était téton et eau. Donc tu vois, c'est pas très dur à apprendre en fait.
Excuse-moi, celle-là, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt.
Tu vois, donc
Téton
tu.
et eau.
Il faut le savoir, il faut le savoir. Bon.
T'en as pas d'autres exemples comme ça?
Alors, un exemple aussi
Ah,
parlant,
celle-là.
j'en ai pas.
Ah, mais là, ça me parle bien.
Et par contre, les pièces de la maison, bah, c'est pareil, ça va être cuisine, pièce, ça va être dormir, pièce, tu vois,
Ok.
ça va être. Donc, tout est construit comme ça.
Ah, ok.
La difficulté, donc, parce qu'il faut un prix à payer pour tout.
Ouais.
La difficulté du laotien, c'est que c'est une langue à ton.
Ah merde, dans la
Alors, les tons,
prononciation,
c'est
tout repose dans
très,
la
très dur.
prononciation en fait, c'est ça?
Ouais. Alors, en fait, c'est la façon dont tu termines le mot, ça va déterminer son sens, en fait. Vu que c'est pratiquement que des mots monosyllabes, du coup, t'as moins de possibilités. Donc, il faut trouver d'autres possibilités pour construire plus de mots. Et les possibilités, ça, c'est avec les tons. Et donc, selon la région, je crois qu'au nord, c'est 5 tons et au sud, c'est 4, ou alors c'est l'inverse, mais c'est quelque chose comme ça.
Ok.
Et les tons, c'est quelque chose de très très dur à maîtriser pour un occidental, parce que nous, on utilise les tons pour l'expressivité.
Ouais, c'est
C'est-à-dire.
ça, pour exprimer la colère, la tristesse, etc.
C'est ça. Et en plus, par exemple, une question. Nous, les questions, ça va être un
Oui.
ton qui monte. Une exclamation, ça va être un ton plat. Une phrase qui se termine par un point, ça va être un ton descendant.
Ouais.
Et vraiment, ce qui est très 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 dur, c'est que quand tu poses une question. En tant qu'occidental, tu as envie de faire un ton montant.
Ah ouais, mais là, tu peux
Tu
pas.
changes le mot. Donc ça c'est très compliqué. Mais heureusement, la plupart du temps, le contexte fait que les gens te comprennent. Parce que pour eux, c'est comme si tu parlais n'importe comment, hein, si
Ah
tu mets pas les
vraiment?
tons. Oui, parce que
Ah ouais, c'est comme ouais, non, c'est comme si tu prononçais un autre mot. C'est comme s'il y avait une autre syllabe en fait.
Exactement, c'est comme si tu prenais ça à un autre mot. Donc eux arrivent à comprendre ce que tu veux dire parce que voilà, il s'est trompé de ton. Donc en fait, il voulait dire ça. Mais il y a des cas où en fait où c'est pas possible parce que notamment, et là je suis sûr, le mot loin et le mot près,
Oh non.
ça se dit caille dans les deux cas.
Oh non.
Il y a seulement le ton qui change.
Oh non, c'est quoi?
Et donc ça m'est
Et
arrivé
quand tu
plusieurs
poses
fois.
la question.
Bah oui, c'est ça,
Ah
quand tu poses la question.
le mec veut faire un peu le mec. Attends, t'inquiète, je gère. Je vais aller demander en là-haut aux locaux. Sauf que le mec, il a la réponse opposée, en fait.
C'est ça, et c'est assez dur de se faire comprendre, parce que même avec des gestes, des fois les gestes, c'est, on pense que c'est un langage universel, mais des fois pas du tout. Et même avec les gestes, t'as beau faire écarter les mains ou resserrer les mains, le mec il se demande en face, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce type, quoi, avec ses mains, quoi. T'es en train de me montrer un gros truc ou un petit truc, ça n'a aucun sens, quoi.
Ça, c'est ma bite. Est-ce que tu peux m'indiquer la prochaine destination?
Alors, t'es prêt?
Alors, t'es... Et là, dis, ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Du coup, t'as dû
Donc
te
du coup,
retrouver
ouais,
par...
mais le mot kai, je m'en souviens parce que c'était le mot quand tu mets pas le ton qui était le plus polysémique parce que ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire poulet, ça veut dire blanc, la couleur blanche, ça veut dire près, ça veut dire loin, et il me semble qu'il y a encore une autre signification que j'ai oubliée, mais c'était un mot qui était extrêmement polysémique, donc c'était avec celui-là, c'était particulièrement dur de se faire comprendre.
C'est vrai que si t'es au milieu de nulle part, tu demandes au mec si c'est la prochaine ville, elle est loin, et que le mec il comprend que tu lui demandes s'il y a du poulet dans la prochaine ville,
Voilà.
là t'as pas la même info.
C'est
Hein,
ça. Là, c'est compliqué. Après, tu fais des gestes avec les mains, donc le mec te dit, il cherche un gros poulet, en
c'est
fait.
ça?
Une noix. Il cherche une noix.
C'est ça. Et alors comment ça s'est passé justement quand t'arrives au Laos, etc. et t'en es arrivé à te dire, putain, faut que j'achète une bécane en fait. Et comment t'as fait?
Alors, pour la moto, du coup, ça commençait à me titiller de me dire. Sachant que j'ai jamais fait de ma vie du scooter, de la mobylette, et c'est à peine si je faisais du vélo parce que je déteste ça. Enfin, je déteste ça, maintenant j'en fais, mais à l'époque je détestais faire du vélo.
Ouais,
Donc tout ce
d'accord.
qui était deux roues, c'était vraiment pas mon truc. Mais quand j'étais sur place, je m'étais dit, c'est quand même un moyen de locomotion qui permet d'aller d'explorer bien plus que les bus ou les trains. En l'occurrence, il n'y a pas de train au Laos, donc voilà, c'était les bus. Et j'ai rencontré un couple qui voyageaient en moto. Et eux, vraiment, enfin, m'ont fait rêver avec ce qu'ils faisaient avec leur moto, surtout qu'eux, ils l'avaient vraiment fait préparer,
Ah, ok,
ils avaient
d'accord.
fait souder des renforts, etc., et puis des porte-bagages supplémentaires, parce qu'ils faisaient vraiment tout leur trip en entier avec leur moto.
Mais c'était alors une motobike locale, c'était pas les grosses motos de trucs qu'on peut voir, c'est
Alors,
ça?
eux, ils avaient une grosse moto, donc ils l'avaient achetée en Asie, hein, mais c'était une moto de type Cross, ça devait être une
Ah, ok.
125 ou équivalent, donc c'était déjà
D'accord.
une belle moto.
Ok, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, internaute, c'est que ce qu'on trouve majoritairement en Asie du Sud-Est, ce qu'on appelle les motobikes. Donc les motos-vélos, quand tu traduis latéralement, c'est des tout petits cylindrés, ultra légers, mais qui permettent, en fait, tu vois, c'est le truc de la vie de tous les jours là-bas, et il n'y a quasiment que ça que tu vas trouver quand tu vas louer une motobike ou quand tu vas vouloir en acheter.
Sachant qu'au Laos, vraiment tout le monde conduit des motobikes, même les enfants de 8 ans. C'est
Voilà.
ce qui m'avait achevé de me convaincre, c'était de me dire si un gamin de 8 ans peut conduire une motobike, moi j'en ai 32, je peux très bien conduire une motobike.
Ok.
Ce qui était un raisonnement complètement erroné parce que les premiers jours sur la motobike, c'était assez difficile.
Surtout que le gamin, il a 8 ans, mais ça fait déjà 8 ans qu'il est sur une motobike.
Voilà, c'est
Parce
ça, c'est
qu'ils
que.
transportent leur bébé sur les motobikes.
C'est ça, bah, toute la famille. Hein. Des fois, tu vois 4 personnes, 5 personnes sur la motobike. Donc oui, ils sont habitués depuis tout petit à voyager là-dessus, quoi. Et donc, bah je sais pas. C'est vraiment, c'était pas tout à fait spontané parce que j'y ai réfléchi pendant quelques jours.
Ouais.
Mais la décision a été quand même assez rapide entre le moment où je m'étais dit j'aimerais bien voyager en motobike
Ouais.
et le moment où je l'ai acheté, il a dû s'écouler 4 jours.
Ah ouais. C'est quand même rapide. C'est pas
C'était
genre deux
très
semaines où tu dis bon, je vais attendre le bon moment, je vais attendre le bon endroit, le bon prix, la bonne occasion. Non.
Non,
En
parce
gros,
qu'en
tu.
fait, ce qui était assez drôle et ce qui m'a aussi. En fait, quand on voyage, il y a beaucoup de choses dont on se sert comme signe.
Ouais. Je suis
Alors, on peut
d'accord.
y croire en tant que signe si on veut y croire. Bon, moi, j'ai un peu des doutes, ce qui est une bonne chose, puisque du coup, ça t'aide à prendre des décisions. Et en général, ça va plutôt dans le sens des intuitions, des choses que tu veux faire. Dans tous les cas, suivre les signes, c'est plutôt une chose qui est bonne quand t'es en voyage.
Ouais, d'accord.
Et en l'occurrence, j'étais dans une ville, je sais plus, c'était une ville très au nord du Laos. Et j'avais rencontré un couple avec qui j'avais voyagé la journée, qui m'avait dit, ah bah on a rencontré d'autres Français et eux ils voyagent en moto.
Ouais.
Et c'était là que l'idée a été, comment dire, j'ai commencé à y penser.
Ouais, parce que tu t'es dit, attends, Quand même, ça commence à
Bah,
faire beaucoup de
surtout que
signes.
dans cette ville, surtout que dans cette ville, il me semble que c'était qu'elle s'appelle Muangsing. C'est une
Ouais.
ville qui est très au nord et c'était des plateaux de riz à perte de vue. C'était magnifique parce qu'il y avait une teinte légèrement dorée avec le soleil, etc. Il y avait un ciel bleu magnifique. Et quand tu vois ça, tu te dis, j'ai envie comment dire, de prolonger l'expérience de la liberté avec une monture, j'ai envie de dire. Donc bon, c'était le cheval ou la motobike. Il n'y avait pas trop de cheval disponible.
C'est ça.
Et comme il y avait toutes ces étendues, ces possibilités d'explorer, et à pied, on est très limité quand même. Donc c'est très bien de faire des balades à pied, etc. Parce que du coup, on profite vraiment, on a l'occasion de marcher au milieu des chandries avec des espèces de petits monticules qui servent à délimiter les parcelles. Donc tout ça, c'est magnifique. Mais quand on voit les étendues, on se dit, bah, j'ai envie d'explorer tout ça, quoi.
Ouais, puis il y a une chose que tu as avec ta motobike, c'est que ta moto, c'est que t'es pas soumis à des horaires aussi. Parce que tu peux être dans les champs, aller dans des coins paumés et prendre des transports qui t'y emmènent. Mais c'est à telle heure, c'est s'il y a un truc qui te touche ou une petite bicoque dans laquelle t'as envie de t'arrêter et prendre un café ou un truc, tu peux pas, t'es tributaire de là où le transport t'emmène. Alors que quand t'as ta motobike, tu t'as une rue à gauche, tu te dis, tiens, viens, je vais à gauche et bam, c'est parti en fait. Il y a ça qui est extraordinaire
C'est
aussi.
exactement ça, c'est la liberté dans les déplacements parce que, en fait, sans motobike, on a une liberté de déplacement une fois qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé dans la ville ou peu importe dans le village où on veut
Exactement.
aller, on peut se déplacer, mais on reste limité en termes de périmètre parce que on est à pied et après on doit solliciter l'aide de quelqu'un si on veut élargir le périmètre pour explorer.
Exactement.
Avec la motobike, en fait, on est libre d'aller absolument partout.
C'est ça qui est génial.
On peut, enfin, et moi je recommande, mais alors vraiment, définitivement, de faire de la motobike. Les pays les plus connus pour ça reste quand même le Vietnam.
Ouais.
Je pense que c'est
C'est
bien
plus
pour
la
faire.
moto même, la moto au
Ouais, la
Vietnam,
moto
parce
à
qu'il y a deux, trois
l'ancienne. Donc
montagnes.
là, pour avoir des motos qui sont un petit peu stylées, c'est vrai qu'au Vietnam, j'en avais vu quelques-unes qui avaient un peu de la gueule, genre en mode Indiana Jones, un peu. Où il
Ouais.
faut faire le mélange essence-huile à la main, etc.
C'est les trucs
Donc c'est.
soviets en fait, c'est les trucs des soviets, des Viet Cong à
Ouais, c'est ça.
l'ancienne. Mais là, autant, ce qu'il faut que tu saches, internaute, c'est que les motobikes, c'est un truc semi-automatique qui, si t'es à peu près coordonnées entre tes mains et tes jambes, c'est-à-dire déjà si tu arrives à marcher tout seul, ça devrait aller, tu peux changer tes vitesses, etc. Quand tu conduis une S125 ou quelque chose qui ressemble plus à une moto, là il y a un embrayage avec un changement de vitesse et des freins, ça gère un peu, enfin ça demande un peu plus de pratique. La motobike, franchement, en 10 km, si tu roules pas trop vite, tu as compris le système et c'est parti, y a là quoi.
Alors, moi, ça m'a pris un peu plus que 10 km, mais je confirme ce que tu dis. Mais bon, ça m'a pris plus que des 10 km. Mais en même temps, j'avais été un peu violent avec moi-même parce que le premier jour, donc j'avais acheté cette motobike à Udomshai, ça, je suis
Combien tu l'as
sûr.
acheté? Combien ça coûte une motobike au Laos?
Alors, je l'ai payé, je pense, l'équivalent de 600 €, ce
Ok.
qui est peu,
Peu
mais
pour
bon, ça.
là-haut ou peu en jeu?
Peu en général, bon après dans un voyage, c'est vrai que des fois on a des budgets serrés, sachant que, alors si vous voulez faire le système de j'achète une motobike et je la revends, évitez de l'acheter au Laos, je pense, parce que ça va être vraiment difficile de la revendre au Laos.
Ah ouais? Ah tu c'est difficile de la revendre au Laos?
Ouais, c'est assez difficile parce qu'en fait, au Laos, ce qui se revend bien en seconde main, c'est les Honda.
D'accord.
Les Honda, ça se revend très très bien.
Et
Mais
ça
par
coûte
contre,
combien? Ça coûte plus cher, c'est ça?
ça coûte beaucoup plus cher. Je pense que ça coûte plus que 1 000 €.
Ok, genre c'est le double quoi.
C'est à peu près le double. Et du coup, donc ça va bien se revendre. Je pense que ça peut même se revendre à 800 ou à 700.
Ouais.
Mais par contre, il faut mettre le prix à la base qui est beaucoup plus élevé.
Yes.
Moi, en l'occurrence, j'avais un budget, on va dire, j'avais pas un budget conséquent. Je crois que mon voyage en tout, il m'a pas coûté tant que ça, hein. Donc 6 mois, ça a dû me coûter à peine plus de 7 000 €.
Ah ouais, bien.
C'était parce que comme je suis resté longtemps au Laos,
Ouais, ça coûte que dalle.
coûte que dalle. Et en plus, une fois que j'avais ma motobike, je payais que l'essence.
Ouais, et ça consomme que dalle aussi.
Et donc après c'était parti. Je payais plus les transports. Bon, au Laos en l'occurrence les transports ne sont pas si chers que ça. Mais
Non.
comme je suis aussi resté un peu dans ce village, comment dire, je me suis intégré. Souvent je me faisais payer des repas, etc. Donc au final le Laos m'a coûté vraiment pas cher.
Ouais.
Mais enfin bref, tout ça pour revenir à la moto. Je raconte quand même un petit peu comment je suis passé de. C'était. Je pensais en acheter une au
Vas-y.
fait d'en acheter vraiment. Donc, pour revenir au signe, donc, ce couple me dit on a rencontré un couple de Français qui voyage en moto.
Ouais.
Je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai qu'avec les paysages et tout, ça serait bien d'avoir une moto. Et le lendemain, je rencontre le couple dont il me parlait. Le
Si ça,
lendemain.
c'est pas un signe.
Donc là, je me dis, ah ouais, non, mais là, quand même, bon, c'est quand même assez flagrant, le truc. Et je leur demande, moi, plusieurs conseils sur la moto, etc. Et puis, je m'étais dit, bon, je ne savais pas trop si je devais l'acheter ou pas. Et j'atterris donc à Udom Shai, qui est une ville encore au nord du Laos. Et là, un jeune Laotien vient me parler, parce qu'il était content de parler avec un étranger. Et donc, on parle, on parle, on parle. Et à un moment, je lui dis, en fait, c'est ma chance. Je vais lui demander, aide-moi à acheter une moto. Parce qu'à ce moment-là, parce que je ne parlais pas à ce moment-là du tout laotien.
Et puis en plus, tu te disais, si ça vient d'un Lao avec qui je suis un peu pote, je me ferais peut-être moins carotte sur le prix.
Exactement.
Bonne idée.
Et
Très
donc,
très bonne idée.
le mec a été vraiment, vraiment gentil parce que il est parti avec ses potes, à lui.
Ouais.
Ils ont été faire au moins, je pense, 4 ou 5 magasins à négocier.
Ah ouais?
Et donc, en fait, une fois qu'ils avaient trouvé, moi je leur avais dit à peu près ce que je voulais payer max.
Ouais.
Une fois qu'ils avaient trouvé, en fait, le commerçant a eu la surprise de me voir débarquer parce que, enfin, il pensait pas que
Bien
c'était pour
sûr.
moi. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai signé les papiers un petit peu à l'aveugle parce que c'était écrit bien sûr en laotien et
Ouais.
que je ne comprenais rien du tout à ce qu'il y avait écrit.
On est d'accord.
Donc, j'ai signé les papiers, on m'a offert un casque. Bon, j'ai rapidement changé de casque parce que
Ce qu'il était
c'était.
en carton.
Bah, il était en carton et puis quand je tournais la tête, le casque ne tournait pas. Donc c'était légèrement dangereux en fait. C'est-à-dire que tu tournes la tête à l'intérieur de ton casque.
Mais le truc, la coque en plastique ou quoi,
Elle
elle
restait droite. Donc c'est-à-dire, c'était comme tu sais, les caméras maintenant qui sont hyper stables, hein, mais en version casque. Donc c'était l'inverse de ce que ça devait faire. Et en plus, quand je freinais, le casque se tombait sur mes yeux et je voyais plus rien. Comme en général, quand tu freines, c'est que y a quelque chose devant.
Ouais,
C'était mieux
et puis en plus
de
en
pas.
général quand tu commences la motobike c'est là où t'es plutôt genre le moins à l'aise donc dès qu'il se passe un truc tu commences à paniquer, type je vois pas ce qui se passe. Tu t'es dit je vais peut-être
Exactement.
investir dans un casque.
Et voilà, donc j'ai acheté ma moto à Udom Shai. Et le lendemain de Udom Shai, je suis parti à Phongsali, qui est pour le coup vraiment tout au nord du Laos, qui est presque à la frontière avec la Chine en fait.
Ah ouais.
Et j'ai roulé combien de temps? J'ai roulé, il me semble, je crois que la distance était quelque chose comme 200 km, un truc comme ça.
Le premier jour, t'as fait 200 km en scoot, mec?
Ouais, mais c'était une très mauvaise idée.
Ah bah oui. Bah
Et en
déjà 30-40 km en scoot, voilà, c'est éprouvant, ça va pas spécialement vite, il y a la chaleur, mais 200 bornes?
Ah ouais, 200 bornes, non, c'était terrible parce qu'en plus, les routes. Alors en fait, le truc qui m'avait. Je pensais faire une halte au milieu, mais c'est que disons, la moitié du trajet était. Bon, c'était en montagne,
Ouais.
mais les routes, il y avait très peu de dénivelé, donc ce qui faisait qu'en fait, je roulais presque que sur du plat.
D'accord.
Même si c'était en montagne, on va dire, c'était des virages, mais voilà, c'était dans les vallées où c'était une altitude modérée. Et j'avais dû faire la moitié, peut-être 75 km. J'avais dû mettre, je sais pas, je roulais vraiment pas vite parce que c'était au tout début que j'avais la motobike et donc je savais pas
Ouais.
la conduire.
Ouais.
Et je sais pas, ça m'avait peut-être pris 3 heures peut-être ou trois
Ah
heures et demie.
ouais.
Et donc je m'étais dit, ouais, bah j'ai fait 75 km en 3 heures et demie. C'était encore assez tôt dans la journée, il devait être midi ou quelque chose comme ça. Je me dis, bon, bah allez, je vais directement à Phongsali d'un coup, quoi.
Ouais.
Par contre, les 75 km ou les 100 qui restaient, c'était pas la même histoire. En tout cas, du coup, c'était vraiment dans la montagne, avec des routes qui étaient toutes pourries, mais toutes pourries. Les camions là, ou les roues qui passaient sur les routes. Et là, par contre, là, j'ai galéré. Je crois que le reste du trajet, donc la locomotrice.
Le mec a cru qu'il allait mourir le premier trajet, quoi.
Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non, puis là, j'ai eu la chance. C'était pas très, comment dire.
Il y avait la nuit ou pas?
Quand je suis arrivé quand il faisait nuit en fait. Je suis arrivé à la nuit parce que. Et j'étais désespéré. J'étais désespéré parce que je pensais que j'arriverais jamais à cette ville, je la trouvais pas. J'étais dans les montagnes, je roulais dans tous les sens, dans des routes toutes pourries. Tu sais, en plus au Laos, t'as pas de signe, quoi. Parce que
T'as pas de
les
signe,
routes
non, mais
pourries,
surtout
y
t'as
en a.
pas de réverbère. T'as ton phare qui éclaire à 2 mètres et c'est tout, quoi.
Voilà, c'est tout, ouais. et puis t'as pas un petit panneau qui dit attention, il y a plus de bitume, par exemple. Donc d'un seul coup, tu passes d'une route bitumée avec, bon, bah, qui est quand même bien pourrie, mais quand même c'est bitumé, à des cailloux et de la terre. Tu vois, sans transition, quoi. Avec une espèce de marche, tu vois, qui fait parce qu'il n'y a plus de bitume, donc forcément, bah, c'est... Bah, tu te prends un petit coup, un petit tascu.
Ouais.
Et donc, les 75 autres kilomètres, je pense que j'ai mis 6 ou 7 heures, quoi.
Mais
là,
est-ce
c'était.
Que...
Est-ce en plus, que... il commençait à pleuvoir quand je suis arrivé. Bon, heureusement, c'était à toute fin, mais j'étais vraiment désespéré.
Le mec est arrivé, bonjour, hébergez-moi. Hébergez-moi, aidez-moi. Non, ça, c'est. Est-ce que malgré ça, parce que t'as fait quand même pas mal de bornes au Laos avec ta motobike, tu conseilles quand même aux gens d'en acheter une comme ça? Plutôt que de la louer.
Alors oui, alors.
Plutôt que de la louer, je dis, parce que tu peux en louer partout au Laos. En fait, comment ça se passe, Internet, c'est que tu arrives partout en Asie du Sud-Est, hein, c'est pas que au Laos, tu arrives quelque part, tu dis, et tu. Il n'y a pas de Avis ou de Europcar, tu vois, pour louer son scooter. Hein. Tu demandes au taxi, tu demandes à ta guest house, bonjour, je voudrais louer une motobike, et en gros, ils vont ramener, ils vont te la louer la leur, ils vont trouver leur cousin qui vont te ramener la leur, qui vont te la jouer pour la journée ou pour plusieurs jours. Mais du coup, ça t'oblige à faire un espèce de rayonnement autour de ta guest house. Et non pas un trip itinérant comme toi t'as fait André. Est-ce que quand même, toi qui as peut-être fait un peu des deux, tu recommandes aux gens quand même de... Ça vaut vraiment le coup d'investir dans une petite motobike?
Ah, moi je conseille tout à fait. Après, bon, pas forcément l'acheter au Laos si vraiment le trip il est orienté moto.
Ouais.
Mais en tout cas, faire le Laos en moto, je le conseille parce qu'il y a des expériences qui n'arrivent, je pense, que si tu es en moto.
Comme quoi?
Bah, comme par exemple s'arrêter à un restaurant, il y a un mariage et tu finis dans le mariage. Ça n'arrivera pas dans une ville qui est dans le guide, ça c'est clair.
Ouais.
Parce que les mecs, ils te voient, ils font, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec, tu vois?
Ouais.
Ou alors arriver dans un village, dormir dans la maison du chef du village, avoir une fête, je sais même plus quelle fête c'était, avec des moines bouddhistes, une compétition de comment ça s'appelle, de pagode, c'est ça? Les bateaux qui sont extrêmement longs là.
Ah oui, d'accord, ouais, les grandes, ouais, je sais plus comment ça s'appelle ces bateaux là, ouais, mais.
Et donc t'as une compétition de ça dans le village et. Il y a aucun autre touriste à part toi, quoi. Donc ça, c'est le genre de truc, ça n'arrive. Ou alors le nombre de repas que je me suis fait payer.
C'est vrai, mais vraiment souvent.
Non, au Laos, je me suis fait payer un nombre incroyable. C'était plus à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir parler laotien.
Ah.
Mais c'était aussi dû au fait que j'avais ma motobike et je tombais dans des endroits où les gens ne s'attendaient pas à me voir.
Ils ne s'attendaient pas à te voir, tu parlais quelques mots et tu avais ta motobike. Et là, le mec, c'était refait.
Ça arrivait très très souvent où... On m'a payé, soit c'était le repas, ou quand j'avais commandé le repas et que je payais mon repas, à la suite on m'offrait des bières.
Allez hop.
D'ailleurs, après je repartais un peu tard parce que j'avais des BQV, etc. Le mec était trop content que je sois là. Tu sais, la première bière là-haut, la bière là-haut, la première elle passe bien, mais la cinquième, faut faire une petite sieste quand même.
Parce qu'il fait 40 degrés et reprendre la route à 4 heures, c'est bizarre quand même.
Voilà. Mais non, je conseille parce qu'il y a, puis en plus, il y a des endroits où la route, il y a des paysages magnifiques. Donc, c'est vrai qu'on peut, les apprécier depuis la vitre d'un bus. Mais c'est quand même pas pareil que s'arrêter au milieu de nulle part, dans une montagne. Je pense par exemple aux alentours de Vang Vieng.
Ouais.
C'est magnifique. Et Vang Vieng, si tu vas dans la ville même, en plus, comme c'est une des seules villes du Laos qui est un peu une ville, on va dire, festive.
Ouais.
Tu vas louper un petit peu les paysages qu'il y a autour qui sont vraiment sublimes.
Mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai fait que le côté fête, surtout qui a changé là-bas, parce qu'avant c'était carrément sur la rivière, c'était vraiment la grosse orgie là-bas, et que j'ai pas exploité, et ce dont tu m'as parlé après, ce côté beauté naturelle, alors qu'en plus moi je suis très fan de tout ce qui est nature, et c'est vrai que j'ai été me renseigner un peu, et c'est vrai que ça a l'air magnifique. Et surtout quand tu as un accès, comme tu dis, quand tu as une ville qui est orientée fête ou qui est orientée trek ou peu importe, qui est orientée sur quelque chose, ça va être difficile d'aller voir les autres aspects parce que tout est orienté sur une seule thématique.
Oui, c'est ça. Et puis, en plus, tu as l'effet, comment dire, du... Je trouve que dans le bus, même si tu regardes par la fenêtre, même si on peut observer le paysage, etc., on reste confiné à l'intérieur d'un espace, on n'est pas vraiment... Il n'y a pas ce même sentiment de liberté quand tu es vraiment sur ta motobike et quand là, d'un seul coup, au détour d'un virage, tu tombes sur une montagne magnifique qui est plantée, on dirait que presque tellement c'est incroyable, on dirait qu'elle est suspendue au-dessus des champs au-dessus des rizières.
Ouais.
Tu t'arrêtes, tu mets ta béquille et tu restes là 20 minutes juste à regarder. Tu vois, tu es tout seul, t'as, t'as, Et là, tu as des moments de sérénité, de, comment dire, de tranquillité et de paix de l'âme, je pense que tu peux n'avoir que si tu as ta moto ou ta motobike.
Parce que tu as été chercher ce moment de quiétude par toi-même et qu'il t'est offert un peu par ton aventure et ta propre progression, c'est ça?
Et puis tu peux en profiter parce que c'est toi qui décides de t'arrêter. Parce que
Ou
le
de
bus
pas
du...
repartir.
Ou de pas repartir, exactement, oui. Mais vraiment, aux alentours de Vang Vieng, y a des endroits, c'est vraiment magnifique. Et bah, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de m'arrêter parce que sinon, je vais arriver trop tard, quoi. Mais y a vraiment, on passe dans des montagnes. Au détour de certains virages, bah, c'est assez époustouflant de voir l'espèce de contraste qu'il y a entre des montagnes très très droites et le fait que les rizières soient très plates. Et ça fait des espèces d'étendues. C'est assez sublime avec les couleurs. Le riz, enfin, les rizières, à ce moment-là, avaient une teinte dorée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment ça
Bah, c'est
correspond.
quand c'est la fin, ouais, que justement. En fait, soit les rizières sont vides parce que c'est pas, ils viennent de le récolter, soit c'est très vert parce que ça vient de pousser, ou soit même ça va être doré parce que c'est un peu vers la fin où il faut le récolter, etc. Ça, c'est, hein, ça va être extraordinaire. Ça m'amène sur mon autre question, c'est quels ont été les moments où tu t'es senti le plus exalté? C'était quel moment, quel lieu et quelles circonstances où tu t'es senti le plus exalté dans ton voyage et c'était. Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment dans ce côté exaltation? Qu'est-ce que t'étais où? Tu faisais quoi?
Et ben, je dirais, c'était quand j'étais sur la route, en fait. Quand j'étais sur la route, parce que c'était pas nécessairement le fait d'être sur la route, c'était que aussi je découvrais un aspect de ma personnalité que je connaissais pas du tout.
D'accord.
C'est que j'aimais rouler, en fait. J'aimais la sensation qui était associée au fait de rouler et de simplement rouler. Et ce truc-là, c'était quelque chose que je n'imaginais pas du tout de moi parce que quand j'étais en France, les mecs, ils me parlaient de leur moto ou de je sais pas quoi, j'en avais rien à foutre, quoi. C'est vraiment le truc qui m'intéressait le moins du monde, quoi. Et du coup, d'avoir à la fois cette espèce de découverte de soi et en même temps découverte de paysages qui font un peu l'écho l'un à l'autre, je pense que c'était les moments les plus exaltants parce que. Et puis, il y avait un côté. C'était des moments qui étaient des moments encadrés de solitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans un voyage, en général, on n'est jamais seul. C'est très très rare qu'on soit seul. Et du coup, là, ça faisait un très bon équilibre entre le fait que quand j'arrivais dans les villes, eh ben forcément, je rencontrais des gens, que ce soit des locaux ou que ce soit des backpackers. Mais dans les itinéraires entre les villes, j'avais cette possibilité d'être bah, voilà, avec moi-même et puis de profiter que pour moi et de ne pas avoir à négocier avec rien.
Avec
Et de.
personne, avec un boss,
Voilà.
un pote ou etc.
Ou
Ouais,
même, parce qu'à un moment donné, j'ai voyagé un petit peu aussi en motobike avec quelqu'un.
ouais.
Et du coup, très vite, tu te rappelles que dès que tu voyages en groupe, tu es toujours dans la négociation. Qui veut faire quoi? Qui veut faire machin?
Yes.
Qui veut aller là? Alors après, on peut toujours splitter en disant, bon, bah, alors on se retrouve à telle heure, ou alors on se retrouve à tel jour, etc. Donc le côté de la motobike, quand on fait tout seul, c'est qu'on peut le faire seul pour des parties d'itinéraire où là, on aura vraiment cette impression de. D'évasion et de se retrouver avec soi-même, et puis rejoindre des petits groupes pour des occasions ponctuelles, et puis faire
S'amuser un peu, etc.
Exactement.
Justement, tu parlais de ces moments de solitude, mais qui te faisaient du bien. Est-ce que tu t'es parfois, durant ton voyage de 6 mois, senti seul? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es senti seul, peut-être? Ou pas?
Ça m'est arrivé, je crois que ça m'est arrivé au Cambodge, effectivement. Ça m'arrivait au Cambodge, donc au Cambodge j'avais plus ma motobike parce que je l'avais laissée au Laos. Et pourtant j'étais pas seul, mais j'avais un sentiment de solitude parce que, comment dire, bah, des fois les gens avec qui on est, bah, forcément il n'y a pas forcément toujours des connexions. Des fois il y a aussi le côté, des fois il y a des petits moments d'abattement aussi dans le voyage, hein, on n'a plus envie de bouger trop, voilà, ça fait 3 mois que tu bouges tout le temps. Tu tombes dans une chambre, il y a l'air conditionné. Et du coup, bah, comment dire, tu te reposes un peu trop et puis tu.
Tu te relâches, il y a un petit moment de relâche.
Voilà, exactement.
Il y a l'ancien André qui redébarque.
Et là, tu pantoufles un peu, quoi. Tu descends juste au restaurant de ta guest house. Bon, il faut juste maîtriser que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Mais oui, ça arrivait, oui.
Mais du coup, c'était te relâcher ou te sentir seul? Parce que se relâcher et être tranquille, ça fait du bien aussi. Mais se sentir seul, c'est un sentiment un peu négatif dans le sens où il nous manque quelque chose.
Bah, Je dirais que je me suis senti, comme j'ai dit, je me suis senti, les fois où je me suis senti seul, c'était pas parce que j'étais pas entouré de personnes, c'était parce que j'étais,
Je comprends ce que
comment
tu veux
dire,
dire. Non, mais t'étais pas en. Ça accrochait pas avec les autres personnes, t'étais pas sur la
ça
même longueur
accrochait
d'onde que
pas.
le lieu ou les gens où tu étais.
Et puis aussi, il faut dire aussi que des fois, comme dans tout, il y a le ras-le-bol de la répétition, parce que quand ça fait 15 fois que tu rencontres les backpackers et puis qu'on te demande tu viens d'où, t'as quel âge et tu vas où, bon,
Et
la
t'as fait
15e
quel
fois, t'en...
pays?
voilà, t'as fait quel pays, et la 15e fois, t'en as marre, t'as envie de parler d'autre chose, quoi.
C'est ça.
Et donc, des fois, t'aimes bien trouver aussi des gens avec qui tu peux avoir des conversations un peu plus profondes que simplement ta dernière et ta prochaine destination.
Yes.
Et je pense que les moments de solitude, ils n'arrivent pas forcément quand tu es seul. Littéralement, mais quand tu es dans un endroit où tu as peu de, comment dire, peu de personnes avec qui bah, approfondir une discussion
Ouais,
ou
t'as peu d'affinité, t'es pas en phase avec soit le lieu, soit les gens en fait.
c'est ça.
Ouais.
Bah,
Petite
de toute façon,
question.
c'est
Ah, pardon.
pas. Ouais, vas-y.
Non, non, je t'en prie, toi, vas-y.
De toute façon, c'est pas. En fait, c'est pas si paradoxal parce que si tu regardes bien, c'est dans les grandes villes où je pense que le sentiment de solitude est le
Exactement.
plus souvent exacerbé. Et
Je.
pourtant, c'est les villes où il y a le plus de gens.
Totalement. Mes expériences de sentiment, pas de solitude, mais d'être plus tourné vers moi-même et un peu dans mon coin. C'est effectivement plus il y a de monde. Mais en fait, c'est un sentiment, j'ai l'impression, qui est un peu comme un peu général. C'est-à-dire que tu vas dans un petit coin paumé, il y a trois personnes, ton instinct de survie va en fait te conduire à aller vers ces gens-là. Que cette personne, elle, ce soit un mec avec un look un peu gothique, un baba cool ou un local super roots, bah, t'es tout seul avec ces trois personnes, tu vas aller les voir, salut, ça va, on mange où, etc. Quand tu te retrouves dans une guest house, dans un lieu où t'as 100 personnes, bah déjà tu vas te dire bon, quelles sont les personnes avec qui je pourrais bien m'entendre? Tu fais une espèce de sélection. Et puis après tu aperçois que t'entends pas tant bien, tu t'entends pas si bien que ça avec les personnes que tu pensais, et bah boum, tu te renfermes sur toi-même. Et c'est vraiment bizarre et triste, mais c'est en général les gens, tu vas plus simplement vers les gens quand on est peu, parce que c'est cet instinct de survie, et surtout l'instinct de survie fait un truc absolument génial, c'est qu'il enlève tout jugement, tout stéréotype, tout a priori, vraiment sur ce que tu vas vivre ou les gens que tu vas rencontrer. Il est juste là, bon, bah, il y a d'autres personnes, je peux communiquer, je peux peut-être être en sécurité, je peux peut-être avoir des conseils, je vais aller les voir. Peu importe qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce qui, d'habitude, vers quoi je me dirigerais, mais voilà. Alors que quand il y a plein de monde, eh bah, tu vas reprendre un peu ton expérience passée, tu vas reprendre ces règles du passé que tu vas réappliquer à ces gens qui sont autour de toi alors qu'ils sont pas forcément vrais. Et je trouve que justement aller se paumer en voyage, ça je trouve génial, c'est quand tu vas te paumer en voyage, t'apprends à être juste ouvert d'esprit et à prendre ce qui vient. Et ça c'est génial, je trouve.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et
Et
ben, j'aime bien quand t'es d'accord. Voilà, il n'y a plus de débat,
Eh
ciao,
bien, salut tout le
au
monde.
revoir. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est le fait d'être en petit nombre, mais c'est un effet réciproque, c'est-à-dire que les gens aussi vers lesquels tu vas aller, ils vont être dans le même état d'esprit aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'ouverture et de, comment dire, de tolérance. Qui n'existe pas dans les très très grands groupes et dans les vraiment groupes très vastes comme dans les capitales, etc. Parce que tu vas sélectionner les gens qui te ressemblent, par exemple, ou donc tu penses qu'ils te ressemblent. Et c'est pas forcément une bonne idée. Alors que quand tu es quatre perdus au milieu d'un village, bah forcément, bah, tu vas composer avec les personnalités existantes. Et en plus, c'est une très bonne leçon de vie parce que du coup, bah là, tu peux pas faire comme sur ton téléphone, bloquer la personne. Elle est là, c'est tout. Elle existe et tu peux pas nier son existence. Et je pense que du coup, ça a un côté, ça donne une dynamique très positive où chacun doit s'accepter. Et tu vas vers des gens pour lesquels tu n'aurais pas eu forcément beaucoup d'intérêt avant. Et du coup, tu comprends que tu as à apprendre d'à peu près n'importe qui, en fait.
Ça a été quoi? Là, je t'ai parlé des moments où tu étais le plus exalté. Ça a été quoi les moments où tu as rencontré des soucis, où tu as été le plus down, ou est-ce que tu as eu des galères un peu particulières?
Alors, moi je ne sais pas si c'est ça pour les autres voyageurs, j'ai tendance un peu à penser que c'est pour tout le monde pareil, mais mes pires galères sur le moment, c'était mes meilleurs souvenirs plus tard.
Ah,
Et
intéressant. C'est-à-dire?
j'ai eu des galères, bon, c'était jamais vraiment des énormes galères où j'ai risqué ma vie, quoique en motobike, bon, ce n'était pas sûr. Mais par exemple, bah, avec ma motobike, oui, j'en ai eu un paquet de galères parce que le truc, donc c'était une marque chinoise.
C'était pas la Honda?
Ah, c'était pas du tout la Honda, et puis c'était pas de la qualité, c'était pas de la qualité supérieure. Et j'ai eu un nombre de galères avec ça. J'ai crevé mes pneus, j'ai cassé mon frein, j'ai déraillé un nombre incalculable de
T'as
fois.
déraillé en moto, ça va être l'enfer.
Bah, le pire, je crois, c'était le frein, parce que j'avais aucune idée de ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, comme j'avais aucune notion de moto, et je faisais très peu de vélo, en fait, je freinais très très mal. J'utilisais principalement mon frein arrière, en me disant que c'était comme ça qu'il fallait faire pour. Alors qu'en fait, en moto, on utilise 70% le frein avant et 30% le frein arrière. Parce qu'une moto, pour vraiment la renverser, surtout une motobike, bon, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas une moto super puissante. Pour la renverser, pour passer par-dessus, bon, faut quand même un peu y aller, quoi. Je pense qu'il y a à peu près aucune chance qu'en freinant pile avec le frein avant, le truc,
Face au soleil, quoi, c'est
voilà,
compliqué.
ça va être très dur. Bon, je dis pas que c'est impossible, mais ça va être très dur. Et je freinais presque exclusivement avec le frein arrière. Et un jour de chaleur extrême, ben, j'ai trop appuyé sur le frein arrière et j'ai complètement déglingué le frein. J'ai aucune idée de comment ça marche. Hein, donc c'était un espèce de frein. Enfin, j'avais vraiment aucune idée de comment ce truc marchait. Et bien sûr, c'était au milieu de nulle part. Et là, c'est là où j'ai eu la chance incroyable. C'était que j'étais entre deux villes. Alors, je me souviens plus, mais je crois que j'étais sur le chemin de Wang Bien.
Ok.
Et la ville précédente, ça faisait bien 15 km que j'avais quitté.
Ouais.
Et
Ah ouais.
la ville suivante, c'était aussi pareil, 15 km.
Mais il y a de nulle
Et
part.
c'était au milieu de nulle part. Et j'avais cassé mon frein là-dedans. Et j'étais au milieu de montagne. Et alors là, c'était la chance incroyable.
Attends, mais
Et
la chance incroyable, elle est arrivée au bout de combien de temps? Je sais même pas ce que c'est, mais elle est
puis,
arrivée.
en fait, elle est arrivée immédiatement parce que
Ah, direct!
j'ai cassé mon frein à un endroit où il y avait deux types au bord de la route. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ils étaient en train de parler. Ils avaient garé leur motobike. Ils étaient en train de parler. Et j'ai pété mon frein, mais genre presque en face d'eux, quoi. Et ça faisait genre 10 km que j'avais rencontré personne.
Ok.
Et donc j'ai cassé. Ah non, j'ai des conneries. Cette fois-là, c'était pas que j'avais cassé mon frein, c'est que j'avais déraillé.
Derrière, mais tu savais pas ce qui
Déraillé.
s'était passé.
Et j'avais pas ce qui s'était passé. Et donc, bah, je sentais bien que j'avais beau accélérer, ma moto n'avançait pas. Et donc je suis allé les voir et j'aurais montré ma motobike. Ils ont compris tout de suite le problème. Ils ont commencé à bricoler ma motobike avec les outils qui étaient fournis avec. Malheureusement, comme j'ai dit, c'était une marque qui n'était pas de très bonne qualité.
Les outils sont pétés.
Alors les outils, c'était, ils sont pas pétés, mais c'était presque ça. C'était qu'en fait, il y avait une clé anglaise et en serrant, en voulant desserrer un boulon, en fait, la clé anglaise est devenue ronde. C'est-à-dire que c'était comme si c'était un peu de la pâte à modeler, en fait. Comme si on avait fait des outils en pâte à modeler, quoi.
C'est des jouets play school. Tiens,
Voilà.
amuse-toi avec ça.
Donc il m'avait filé des trucs en plastique. Et donc le truc, bah, ne dévissait pas les boulons. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, putain, c'est mort, les mecs, ils vont jamais, bah voilà, bah, mes outils ne fonctionnent pas, c'est mort, quoi. Et les mecs, avec des outils que eux-mêmes avaient de leur motobike et des cailloux et des pierres, vraiment, ils ont passé un temps de ouf. Ils ont vraiment passé un temps de ouf. Je crois qu'ils ont passé 2 heures.
À 2 heures! Ah ouais,
Ouais.
c'est vraiment un temps de ouf.
Ouais, ils ont passé énormément de temps. Ils ont réussi à me, comment dire, à libérer la roue, parce qu'il fallait sortir la roue pour remettre la chaîne.
Ouais.
Ils ont remis la chaîne, ils ont resserré la roue comme ils ont pu. Et à la fin, les mecs, je voulais leur donner quelque chose. Et à la fin, ils ont juste dit, bah non, c'est bon, quoi, en fait. Voilà, vas-y. Et voilà, la gratuité pure.
Waouh.
La pure gentillesse de dépanner quelqu'un. Et donc là, oui, j'ai eu de la chance. Donc c'était une galère, mais d'un autre côté, c'était, comment dire, ça m'a appris aussi une forme d'humilité et de, comment dire,
De générosité.
un devoir de réciprocité. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de mon trip au Laos, j'ai laissé ma moto dans un village et que j'ai pas voulu la vendre. En fait, j'ai laissé parce que j'ai reçu tellement des gens au Laos
Ça c'est beau ça.
que je me c'était c'était ben je me sentais dans l'obligation de faire quelque chose, parce que j'avais tellement reçu de gentillesse. Dès que je m'écartais des villes qui étaient sur les guides,
Ouais.
les gens étaient vraiment adorables. Et tu te dis, ben voilà, c'est à un moment donné, il faut soi-même être dans le même état d'esprit et participer de cette réciprocité.
Génial. Et donc tu l'as donné à quelqu'un qui en avait besoin.
C'est ça.
Ah ben génial. Et à la base, t'avais pas voulu l'emmener avec toi dans les autres, enfin faire le tour de l'Asie du Sud-Est avec?
Alors, ça m'avait traversé l'esprit. Le problème, c'est que je crois que c'est extrêmement compliqué de passer la frontière avec une motobike qui a été achetée au Laos.
Ah.
C'est assez simple de passer la frontière, par exemple, si la moto a été achetée au Vietnam.
D'accord.
Il me semble que les motos qui sont achetées au Cambodge, mais ça, il faudrait vérifier, il me semble qu'on peut aussi passer les frontières assez facilement. Mais au Laos, je pense que c'est très compliqué parce qu'il y a certaines lois qui sont... Bon, c'est encore un régime, on va dire, de type communiste.
Ouais.
Même si, franchement, sur place, on ressent
Oui,
pas trop.
non.
C'est pas le truc qui saute aux
C'est
yeux.
communiste à... De toute façon, c'est en train de devenir communiste à la chinoise, donc vu qu'ils sont en train d'envahir le pays, mais...
Ouais,
Donc c'est...
mais c'est pas le truc qui saute aux yeux. Il y a quelques éléments comme les haut-parleurs dans les villes, les villages. Voilà, 8 h du matin, t'as les annonces officielles. Bon, je sais pas si c'est très révélateur. Enfin bref, d'un point de vue administratif, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, mes papiers étaient moyennement en règle, on va dire. Hein. J'avais signé des
D'accord.
trucs. Bon, j'étais même pas sûr de pouvoir être propriétaire
D'accord.
motobike en tant qu'étranger.
Ouais.
Donc c'était très compliqué de passer la frontière et de la vendre. Ça m'avait, enfin c'était plus du tout à l'ordre du jour après tout ce que j'avais reçu de la part des Laotiens. Donc j'avais décidé de la laisser. Par contre, c'est vrai que dans la suite de mon voyage, ça m'a beaucoup manqué d'avoir une motobike et je pense que j'en ai loué très très régulièrement, même si c'était pas du tout la même chose, parce que quand tu loues, comme tu as dit, t'es obligé de la ramener au point où tu l'as louée en général.
Eh oui, c'est une balade.
Ah, c'est une balade. Après, on peut louer pour plusieurs jours, ce qui permet de faire des balades assez conséquentes, mais quand même, c'est pas la même sensation, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui, justement, pour revenir au tout début de ce podcast, la raison pour laquelle t'es parti, à la fin, justement, de ce gros voyage de 6 mois, est-ce que t'as trouvé les réponses? Qu'est-ce que ça a été pour toi, les réponses? Si tu les as
Alors,
trouvées?
disons qu'entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu,
Ouais.
les questions avaient changé.
Ah.
C'est-à-dire que j'étais plus dans le même cadre de référence.
C'est quoi les questions que tu avais avant de partir et celles que tu avais en revenant?
Les questions que j'avais avant de partir, c'était plus des questions qui étaient liées, on va dire, à un mode de vie traditionnel. Où est-ce que je vais acheter mon pavillon? Quel est mon plan de carrière? Ce
Ouais.
genre de choses.
Ouais.
Bon, même si je savais au fond de moi que c'était pas forcément ce qui me correspondait, mais c'était genre où est-ce que je vais m'installer, on va dire.
D'accord.
Où est-ce que je vais m'installer en France, et voilà. Et quand je suis revenu, je me suis dit comment je fais pour continuer à voyager. C'était plutôt ça. C'est-à-dire que toutes les questions d'avant avaient sauté, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux pas partir avec une question précise, parce que bon, se chercher soi-même, oui, on est tous plus ou moins en permanence en train de se chercher soi-même. Mais je pense que les moments où on est en phase avec soi-même, c'est quand on ne se pose pas cette question, justement. Et il faut aussi laisser au voyage. Je pense que, en fait, c'est pas forcément de trouver les réponses, c'est de reformuler les bonnes questions, de poser les bonnes questions. C'est-à-dire que tu vas
C'est
partir avec
intéressant
certaines
ce que tu
questions
dis.
qui vont être liées à la situation, la situation de ton départ. Et cette situation, en voyage, elle va plus exister. Tu vas te poser d'autres questions. Et ces questions vont être plus profondes, plus pertinentes pour toi que celles que tu te posais avant de partir, spécialement si c'est ton premier voyage, en fait. Parce que tu
Exact.
n'as aucune expérience de ce que c'est d'être à l'étranger, d'avoir ces barrières et ces frontières qui sautent. Et donc, les questions peuvent évoluer. Et c'est plus intéressant, à mon avis, de faire évoluer les questions que d'avoir des réponses définitives. Voilà, j'ai fait 6 mois, je suis parti pour savoir qui j'étais, je suis revenu et j'ai su. À mon avis, ça marche pas du tout comme ça.
Je pense que c'est une super piste. Du coup, pour ceux, évidemment, moi pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui écoutent ce podcast, le chemin que tu as choisi, parce que j'ai fait 2-3 podcasts ces derniers temps sur ce sujet, c'est pour ça que je voulais pas te faire un podcast avec toi sur celui-là, mais tu es devenu un nomade digital. C'est qu'à la base, avant de partir, tu étais développeur web, et ben, en revenant, tu t'es dit, ben, attends, c'est moi ou mon métier il me permet d'être nomade digital? Donc c'est déjà une sacrée piste pour pouvoir continuer à voyager et pouvoir avoir en même temps gagner de l'argent. Donc en
C'est
fait, tu as
ça, ouais.
fait. Aujourd'hui, tu es à Hambourg, mais tu as fait quelques villes aussi. Tu as fait quoi? Tu as fait un peu d'Ukraine, tu as fait.
Alors,
Dis-moi.
j'ai pas fait énormément de villes parce que je suis resté assez longtemps dans chaque ville, mais j'ai fait Lisbonne, j'ai fait Ljubljana, j'ai fait Cardiff, J'ai fait Sofia, j'ai fait Kiev en Ukraine et j'ai fait Lviv en Ukraine aussi.
Classe. Et là, t'as posé
Et
tes
là,
valises.
je suis en bois.
T'as posé tes valises à Hambourg.
C'est
Pourquoi
ça.
Hambourg?
Alors, Hambourg, c'est, on va dire, c'est mon Laos européen.
D'accord.
C'est
Mais
la
pas
ville
pour les mêmes
que.
raisons, je crois.
Non, c'est pas les mêmes raisons, parce que c'est que ça n'a rien à voir en plus. Hein. Mais c'est un coup de cœur que j'ai du mal à expliquer en Hambourg. Surtout qu'en plus, que quand je suis arrivé, j'aimais pas particulièrement cette ville. J'avais beaucoup de mal à comprendre l'état d'esprit de cette ville. Et aujourd'hui, enfin, c'est ma ville, quoi. Tout simplement,
C'est ton chez toi,
j'ai
là,
une
tu te sens chez
connexion,
toi.
j'ai une connexion à cette ville qui est de type émotionnel. J'ai des souvenirs à presque tous les coins de rue. Je connais les quartiers. Je connais les bars, je sais où trouver les événements qui m'intéressent. C'est vraiment, je dirais pas que je connais Hambourg comme ma poche, parce qu'Hambourg c'est très très grand, mais on va dire que le triangle central de Hambourg, je le connais bien
Ouais.
et que je suis connecté émotionnellement à ça, parce que ça a été le prolongement de mon voyage, on va dire, et que c'était aussi le commencement d'une nouvelle vie. Parce que un voyage, c'est. Le problème d'un voyage, c'est que c'est une forme de parenthèse. C'est qu'il faut revenir. Et on n'a pas envie que cette parenthèse se ferme comme si, d'un seul coup, on se disait, voilà, j'ai été quelqu'un que j'aimais bien pendant 6 mois, et on va retourner à sa vie d'avant comme si de rien s'était passé. Il y a une
Exactement.
transformation qui se fait en cours de route, et cette transformation, on ne peut pas l'annuler. Et donc, c'est ce que je t'avais déjà dit quand on avait parlé en discussion privée, mais pour moi, ce voyage, c'était comme si j'étais né, en fait.
Et moi, c'est ça qui m'a. C'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ce podcast ensemble, c'est que cette phrase m'a marqué à vie. J'ai l'impression d'être né à 32 ans. Et.
Mais c'est exactement ça, parce que avant.
Mais pourquoi? En fait, c'est ça que je veux que tu expliques aux gens. Qu'est-ce qui a fait que. Pourtant, c'était quand même toi avant 32 ans, avant ce voyage. Qu'est-ce qui a fait que t'es plus toi? Qu'est-ce qui t'a fait que t'avais l'impression de naître, d'être, enfin, te sentir en vie en fait?
Alors, c'est quelque chose. Alors là, c'est très très compliqué à répondre parce que c'est à moitié métaphysique quand même. Mais qu'est-ce qui fait? C'est. J'imagine que c'est. J'ai eu cette impression d'être né parce que déjà, la personne que j'étais avant, quand je regarde cette personne, je dirais pas qu'il y a une rupture, mais il y a une forme de discontinuité et de. Comment dire? Je me sens plus cette personne en fait, tout simplement.
D'accord,
Le
vraiment.
voyage m'a transformé d'une façon où c'est difficile de me dire que j'étais la personne que j'étais avant de partir. C'est-à-dire, j'ai les souvenirs de cette personne, etc. Mais c'est comme si j'avais eu des œillères sur les yeux jusqu'à ce moment-là.
D'accord.
Et le voyage a libéré, j'ai retiré les œillères. Et du coup, tu fais, voilà, ma vie a commencé à peu près à ce moment-là, quoi. Avant, parce qu'avant, en fait, on ne se rend jamais compte du poids. On va dire des traditions entre guillemets, mais au sens très large, du poids, comment dire, de ce qui est commun, en fait, des chemins qui sont les plus courants, qu'on emprunte par imitation, qu'on emprunte parce que on a l'impression que ce sont les seules voies possibles.
Par défaut, parce que c'est tout ce qu'on
Par
t'a toujours
défaut, ouais.
enseigné, tout ce qu'on t'a toujours montré. Mais ça se trouve, il y a un petit chemin sur le côté que t'as pas vu et que personne n'indique, c'est ça?
C'est ça.
Sauf qu'un jour, t'as décidé de l'emprunter. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc quand tu dis que t'enlèves tes œillères, t'es quand même. Parce que je dis souvent, quand tu pars en voyage, tu pars avec des questions. Je suis d'accord avec toi. Le voyage répond à ces questions, mais tu reviens souvent avec 10 fois plus de questions
C'est ça.
que celle avec laquelle tu es parti, parce que. Vu que le voyage pour moi c'est quand tu le vis vraiment et que t'es pas collé à ton téléphone, et c'est très paradoxal pour moi de dire ça parce que c'est aujourd'hui une partie de mon travail, c'est une grande partie de mon travail, mais avant j'ai vraiment vécu ce voyage personnel. C'est un voyage, c'est que tu ouvres le champ des possibles et des perspectives parce que tu vois tellement de cultures, de façons de penser différentes et de possibilités de te former, de t'instruire, de te transcender, de te dépasser que après c'est la vie. C'est un grand terrain, c'est plus le voyage qui est un grand terrain de jeu, c'est la vie en fait. Et des fois ça peut faire peur parce que tu sais, quand tu es dans ton petit rail, ton petit tunnel tranquille, tu te poses pas de questions, tu fais ton truc, la vie est un peu fade, mais au moins tu te poses pas des questions. Mais que quand tu empruntes la voie de côté qui t'emmène, genre t'ouvres la porte du Truman Show, genre oh, putain, il y a tout ça derrière, ben des fois pour certains ça peut être déroutant. Comment tu l'as vécu ça aussi? Parce que tu as dit que t'as enlevé les œillères, Mais comment
Ah, mais
t'as
il y a des
vécu ça?
moments de, bah, il y a des moments de, comment dire, de doute, hein, ça c'est indéniable, parce que, bon, le phénomène de digital nomade se développe de plus en plus, mais moi quand j'ai commencé, par exemple, je ne savais même pas que le mot existait. Donc
Ok.
je l'ai pas fait parce que je savais que ce truc-là existait, et que je me suis dit, moi aussi je veux le faire. Je suis arrivé, je me suis dit, comment je fais pour continuer à pouvoir partir à l'étranger? C'était ma seule question. Mais après, il faut aussi se dire que, comme on n'est pas dans les modèles classiques, on a beaucoup moins de références. Parfois, on peut être aussi dans un monde qui est un peu plus individualiste. Je vais pas dire égoïste parce que c'est pas vrai, mais individualiste dans le sens où chacun est dans ses propres perspectives et questionnements. Et des fois, c'est plus dur de trouver des modèles. Et des fois, on peut se dire, ah, mais en fait, j'ai raté parce que j'ai pas eu mon pavillon dans le 93 ou je sais pas quoi, tu vois. Et que tu regardes autour de toi, tu vois les gens, ils ont leur chien qui s'appelle Chocolat ou je sais pas quoi. Tu te dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois? Mais parce que tu n'as pas les références, tu as beaucoup moins de références. Alors maintenant, le phénomène se développe au point qu'il y a des groupes Facebook, etc.
Ouais.
Moi, quand j'ai commencé ces trucs-là, enfin, peut-être existait, mais en tout cas, j'étais pas du tout au courant. C'est après coup que j'ai appris que je m'appelais Digital Nomade. Oui, forcément,
Quand tu t'appelles André, c'est ta catégorie en fait. Je préfère te dire, je t'appellerai jamais Digital Nomade. Je t'appellerai toujours André.
Ah, merci,
Non, mais
merci.
qu'on soit clair, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais.
C'est sûr qu'il peut y avoir. De toute façon, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué, mais il y aura forcément plus de questionnements que lorsque l'on prend une voie qui est classique.
On est
Parce qu'il
d'accord.
y a pas, y a moins de balisage, tout simplement.
Et est-ce que tu regrettes
Ah non, je
d'avoir.
regrette pas. Non, je regrette pas. On va dire qu'il y a des mini choix dans ce que j'ai fait que je regrette, mais globalement d'être parti, d'avoir continué après en Europe, etc., je regrette absolument pas. De toute façon, je ne sais pas comment je pourrais regretter parce que si je m'imagine si je m'imagine ne pas avoir fait ce voyage,
Ouais.
franchement, je voudrais pas avoir des photos de moi maintenant. Je ne sais pas ce que je serais devenu. Ça se trouve, je serais devenu un mec sur son canapé qui
Bah,
aurait
j'avoue,
tapé.
t'aurais quelques kilos en plus. Je te le dis. Voilà, on se le dit,
C'est possible
il y
que
aurait
j'ai
quelques pounds en plus sur le
peut-être un
canapé.
peu moins à l'esprit de, comment dire, bah de toujours
Hey, attends, tu sais quoi? T'aurais peut-être même un smartphone. Je te jure.
peut-être,
Non, mais
ah, peut-être,
scénario catastrophe.
c'est possible.
Oh là là, catastrophe. Écoute, si je te prêtais les clés de la DeLorean pour pouvoir remonter le temps. Qu'est-ce que tu dirais pour aller voir le l'André d'IA justement d'avant départ? Qu'est-ce que tu dirais à l'André d'avant de partir? Tu dirais quoi? Un conseil, une phrase, un je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à ce moment-là? Ou t'insulter peut-être, je ne sais pas. On n'en est pas là, on est vraiment dans des vibes
Non, je
positives.
m'insulterai pas parce que j'aime bien ce que j'étais aussi avant.
Ouais.
C'est pas, c'est, je me dénigre pas du tout.
Ça, c'est
J'aime bien ce que
bien.
j'étais avant. Ça m'a construit sur d'autres aspects aussi.
On est
Ce que
d'accord.
je me dirais sûrement, c'est que je remonterai quand je dirais quand j'aurai 25 ans à peu près. J'irai me voir quand j'avais 25 ans et je me dirais, bah, pars maintenant.
D'accord. Tu aurais peut-être voulu faire
Je
ça un tout petit peu plus tôt.
Ouais, même beaucoup plus tôt. Ouais. 25 ans, je pense que c'est bien. Après, il n'y a pas forcément des limites. Hein. C'est pareil. Hein. J'ai vu des gens qui pouvaient partir très tard, qui continuaient à voyager avec, comment dire, un certain âge. Mais disons que c'est dommage d'être passé à côté si longtemps, j'ai envie de dire.
D'accord. Donc tu te dirais, man, alors là, je viens du futur. Tu es en train de perdre ton temps, man. Ça, c'est bon, tu l'as déjà fait X fois. Passe à autre chose. C'est
C'est
ça?
ça. C'est ça.
Ok, j'aime bien terminer par cette question. Vu que tu n'écoutes pas du tout mes podcasts, tu ne le sais pas. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais c'est pas grave, je n'en tiendrai pas
Mais
rigueur.
je vais m'y mettre, je vais m'y
C'est
mettre.
génial, génial. Bah déjà, écoute le tien au moins, tu vois. Si je te donnais une télécommande magique qui te permettait de revivre un seul moment de ton voyage en Asie, pas forcément le meilleur, mais un seul moment, ce serait lequel?
Alors ça serait quand j'étais coincé dans la boue entre Ponxali et Hatsa. C'était le moment le plus dur que j'ai eu avec ma motobike et maintenant c'est le moment que je préfère. Sur le coup, j'ai vraiment détesté, mais c'est là où j'ai un peu senti les limites. Psychologie, mes propres limites psychologiques, c'est là où je les ai senties. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de sentir ça. Donc, j'aimerais revivre ça parce que c'était le genre de galères qui, après coup, sont positives.
Génial, génial. Bah, merci beaucoup André pour ton témoignage, d'avoir pris le temps depuis le temps que j'avais envie que tu me racontes plus en détail toute cette histoire, parce que je pense que ça peut vraiment parler à beaucoup de gens qui sont dans ta situation, mais d'il y a pas mal d'années avant de partir, qui se posent des questions. Et peut-être que ceux qui se posent la question en écoutant ton témoignage, bah, ça va peut-être les aider à passer le pas et à vivre leur aventure à eux, qui auront peut-être après un chien qui s'appelle Chocolat et un pavillon dans le 9-3. Mais l'important, c'est de vivre son truc et pas hésiter si on a ce doute en soi et cette envie. En tout cas, c'est important. Vous pouvez évidemment ne pas suivre André sur ses réseaux sociaux puisqu'il n'en a pas. En tout cas, moi, il y a un truc qui me ferait très très plaisir, internaute, c'est que tu laisses une petite note sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir des feedbacks ou alors aussi d'avoir des sujets ou des personnes que tu aimerais que j'interviewe. Ça m'aide beaucoup pour la suite. André, je te remercie beaucoup. Merci pour
Je
ton
te
temps.
remercie.
Et je te dis à très vite, internaute. Ciao.
Ouais. Salut.